Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouvelle Porte. Aujourd'hui, je reçois Étienne Bulidon, qui est ostéopathe. C'est un ami que j'ai rencontré il y a 2 ans maintenant, sur les premiers événements de Nouvelle Porte. C'est une personne qui est très, très, très curieuse, qui a beaucoup voyagé, qui a eu énormément de petites expériences, plein d'anecdotes. Vous verrez dans le podcast, il y en a quelques-unes de bien sympas. Il a beaucoup fait évoluer son métier également. Donc l'ostéopathie, on va dire que c'est maintenant le cœur de son activité, mais tout autour, il y a une constellation de plein de choses très inspirantes. Voilà, que dire de plus sur le sujet? Je laisserai la place à Étienne pour développer plus, mais en gros, on tourne autour des sujets un petit peu du voyage, les sujets de comment est-ce qu'on peut réinventer un peu son métier, son activité, le gut feeling. Tous des sujets qui alternent entre le rationnel et l'intuition. Voilà, très inspirant en tout cas, une belle discussion de mon côté. Et puis pas mal de petites anecdotes qui m'ont bien fait rire aussi. Je vous laisse directement découvrir tout ça. J'espère que vous passerez un bon moment. Et puis voilà, c'est 1h20 de belles discussions avec Étienne. Salut Étienne, bienvenue dans le podcast de Nouvelle Porte. Je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui, parce que ça fait un moment qu'on parlait de faire cet échange ensemble. Bah écoute, pour commencer, comme à chaque fois, je veux bien que tu te présentes un petit peu, ça donne un peu de contexte sur toi, avant qu'on rentre dans tes sujets de curiosité.
Alors, moi, pour simplifier la chose, je suis ostéopathe. Je me définis comme ça parce que ça va découler sur les sujets dont on va parler. Donc, c'est ce qui occupe la plupart de mon temps. Donc, je suis avec des gens, j'essaie de les soigner avec mes mains. En ostéopathie, on soigne avec les mains. Et à côté, je fais plein d'autres choses. Donc, je fais du sport comme toi, des choses qui me mettent en mouvement. C'est une thématique qui m'intéresse aussi. J'écris, je voyage, je passe du temps avec mes potes. On va pas en parler aujourd'hui, je pense.
Pas parler de tes potes aujourd'hui?
Non, je pense pas. Pourtant, j'essaye d'y passer plus de temps parce que je me suis un peu perdu dans le travail l'année dernière. On va en reparler aussi, je pense. Parce que la petite particularité, c'est que donc je suis ostéo, mais à côté, j'ai d'autres activités. Donc, comme je disais ce matin-là, par exemple, j'étais à la télé. Je suis chroniqueur santé à la télé. Ça ne prend pas énormément de temps, mais quand même, ça puise un peu d'énergie mentale. Il faut préparer les sujets, etc. Il faut y penser. Tu as toujours un petit truc dans le coin de la tête qui prend de la place. À côté de ça, là, je finis un livre avec un médecin sur la prise en charge des sportifs, peu importe le sujet, mais on parle beaucoup de mouvement. Ça va s'appeler Éloge du mouvement, d'ailleurs.
Éloge du mouvement,
Ouais,
d'accord, cool.
ouais. Mais non, on en reparlera aussi peut-être après de ça. Et puis je fais des conférences quand j'ai le temps. Moi, j'ai pas le temps, donc j'en fais pas. Et puis je voyage. Ça aussi, je vais en parler. Je voyage pour soigner des sportifs de haut niveau. Donc, moi, je suis dans le basket. Et donc, voilà, j'ai commencé l'année dernière à aller en Russie pour travailler pour un joueur français. Et puis là, cette année, je vais travailler pour 3 joueurs français normalement. Un encore en Russie, un en Espagne et un où il va signer en Europe de l'Est sûrement, mais on n'a pas encore le club. Donc, ça va amener au premier sujet dont je voulais parler en fait, vu que tu es designer.
Vas-y, on voit le premier sujet. Sans transition, nickel.
On en avait parlé un petit peu en privé. Du concept de redéfinir son métier.
Ouais.
Toi, en tant que designer, j'imagine que ça te parle bien. Le concept de créer son activité, de redéfinir ton métier en fonction de tes compétences, puis de ce que tu aimes, en fait, tout simplement. Nous, c'est un truc dont on n'a pas l'habitude de faire en ostéo. En général, tu es ostéopathe, tu t'es diplômé, tu travailles dans un cabinet, puis c'est tout, quoi.
Ouais.
Tu soignes des gens, et puis voilà, tu fermes la clé du cabinet le soir, et tu fais autre chose en général, quoi. Après, il y a des gens qui sont profs, etc. Mais moi, là, ça fait, comme je te dis, 1 an ou 2 que je redéfinis vraiment la chose où maintenant, je fais les conférences, je fais le livre, tout ça. Et en fait, j'ai la même impression de travailler et de ne pas travailler d'ailleurs en même temps quand je fais de l'ostéo, quand j'écris. Il y a tout une dynamique, un mix d'activités qui s'est créé. Et aujourd'hui, j'ai un peu du mal à définir mon métier, quoi. J'ai créé un truc, mais je saurais pas. J'ai du mal à expliquer aux gens, par exemple, ce que je fais. Quand tu fais quoi dans la vie? Je dis que je suis ostéopathe, mais ça me fait toujours un peu chier de réduire le truc
Ouais, c'est un peu
à
limitant
un
du
nom.
coup,
Ouais.
maintenant que tu as exploré plein de trucs autour. Et
Ouais.
qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis à justement explorer autour de ton métier? Parce qu'à la base, quand tu as commencé ostéopathe, tu voulais faire ostéopathe pour le métier, fermer un peu le concept
Ouais.
qu'il y avait d'arrêter?
Alors déjà, j'ai commencé des études d'ostéopathe par rapport à l'idée que j'avais du métier. Je me disais que ça allait me plaire. Au final, là, ça fait 6 ans que je suis diplômé et je réalise que je fais pas du tout ce que j'imaginais faire.
C'était quoi ton idée à l'origine du métier?
C'était ça, c'était d'être dans un cabinet puis de voir des gens et surtout travailler avec les sportifs parce que je trouvais que c'était cool. En fait, c'était l'idée que je trouvais cool qui m'a poussé à faire ça. Et aujourd'hui, J'ai travaillé sur mes valeurs, sur mes vraies aspirations, etc. Et j'ai eu de la chance parce que ça colle justement avec ce que je fais. Ça aurait pu totalement dévier, j'aurais peut-être pu changer de voie, etc. Mais au final, non, ça a collé encore plus avec le métier et ce que j'ai créé autour. Donc c'est.
Donc au final, en sous-jacent, tu avais quand même cette appétence pour le soin du
Ouais,
corps, quoi.
quand même. Et puis, ce qui m'a poussé, pour répondre à ta question d'avant, c'est intéressant aussi, à faire autre chose, entre guillemets, c'est que je savais pas, je vivais en France, je savais pas que c'était possible de créer un peu, créer sa vie, entre guillemets. Puis j'ai voyagé, j'ai quitté la France il y a 5 ans maintenant pour faire un tour du monde pendant plus d'un an. Et là, tu rencontres vachement de gens que tu rencontres pas forcément dans ta ville, quoi. Quand t'es en voyage, des gens complètement originaux qui ont tout quitté pour créer des business un peu de partout, pour être digital nomade, etc. Puis là, tu te rends vraiment compte que bah, c'est possible de créer un peu ton quotidien, quoi, de changer, de casser les codes, entre guillemets. Mais j'étais dans un environnement où j'avais personne autour de moi qui faisait ça, donc je savais pas trop, j'osais pas, je n'osais même pas y penser, en fait, tu vois, faire autre chose.
Ouais, toi à la base, comme beaucoup de gens, comme moi au départ,
Ouais, ça fait ça aussi.
t'as l'école qui t'amène sur un concept qui est faut trouver ton métier. Et puis après, quand t'as ton métier, t'as les loisirs à côté. Et du coup, tu travailles pour gagner de l'argent pour vivre en même temps pour pouvoir payer tes loisirs à côté.
Ouais, voilà.
Et après, t'as tout le paradigme aussi qui était. Bah après, quand tu es bon dans ton métier, il faut que tu deviennes expert, spécialiste. Et quand tu es spécialiste de ton métier, après, derrière, tu auras des clients qui seront plus gros. Et après, tu pourras
Ouais,
monter ta boîte. Et
puis t'as
après, si
de
tu as
moins en
monté ta
moins de
boîte.
temps et tout.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Et ça reste très séparé, très segmenté. Ouais, tu as un métier et à côté, tu as d'autres trucs.
C'est intéressant ça, la différence qu'il y a en général entre le métier des gens et leurs loisirs. Parce que je me rappelle quand je suis rentré en France, je discutais avec une amie et qui m'avait dit, je lui avais parlé de ça, j'avais peur, j'avais vécu tellement de trucs d'ouf que j'allais me faire chier, c'était sûr, si j'allais me faire chier, si je restais 5 jours dans mon cabinet, ça allait pas être possible quoi. Et j'avais discuté avec une pote qui m'avait dit, mais il faut trouver des moyens de funifier ton job. Et ça m'a. J'avais jamais entendu ce mot, déjà.
Funifier, non, moi non plus, j'ai pas
Ouais.
entendu. Je sais pas s'il existe, mais
Je pense pas
en
qu'il
tout cas,
existe en fait,
elle se
mais il se
l'appropriait, quoi.
comprend
Ouais.
bien. Et ça m'a vraiment marqué. Et putain, pendant des semaines, je me suis demandé comment funifier le job. C'est une idée de génie, mais quoi faire? Raconter des blagues pendant les consultes ou
Ouais.
faire autre chose? Et ça, je sais pas, ça a semé une petite graine dans mon esprit. Et inconsciemment, je pense que la graine s'est développée. Aujourd'hui, enfin, tout ce que je fais, c'est. Je trouve ça fun, quoi. Même pendant les vacances, mes potes me disent, allez, déconnecte et tout. Mais en fait, je préfère travailler sur mes trucs, parce qu'on appelle ça travail, sur mes projets, qu'aller à la plage, quoi.
Donc
Largement.
t'es parti de ton métier d'ostéopathe.
Ouais.
Au bout d'un moment, du coup, t'as fini par t'en lasser, du coup, si t'as senti le besoin de funifier le truc.
En
C'est que ça
fait,
finissait par tourner en rond, tu te sentais un peu enfermé,
je suis pas allé jusqu'à là parce que j'ai quitté la France, j'ai voyagé avant et c'est au retour de mon voyage où j'ai senti le truc avant.
D'accord.
Je me suis dit que ça allait m'ennuyer et je suis pas arrivé au bout du truc.
C'est ce qui a fait que t'es parti voyager, peut-être, non? T'avais besoin
Non, ce qui a fait que
de.
je suis parti voyager, c'était une recherche de. Une espèce de. Comment dire, de fougue, que j'avais en moi un besoin d'aventure. Je savais que j'allais regretter plus tard, par exemple.
Ok.
Et je suis parti pour. Voilà, parce que j'avais une petite voix qui me disait d'y aller et je l'écoutais, quoi.
Donc tu venais de
Donc.
lancer ton activité.
Ouais, je venais de lancer l'activité, sachant que je travaillais dans le cabinet de quelqu'un, j'étais collaborateur, donc ça a été assez facile de quitter le cabinet.
D'accord, ok.
J'avais pas monté tout un gros truc. Voilà, c'était très simple niveau administratif. Et c'est au retour. Je me suis dit, putain, non, je peux plus faire. Je pourrais jamais être heureux, être épanoui en faisant la même activité en attendant le week-end pour faire mes loisirs, quoi. C'est mort, je veux pas de cette vie.
Et en voyage, du coup, comme tu disais, tu as rencontré des gens qui étaient justement un peu sur ces modèles de pensée-là,
Ah
sur
ouais.
l'idée de se dire, bah, en fait, je conçois même pas qu'il y ait une segmentation entre quelque chose qui me rapporte de l'argent
Ouais.
et le reste de ma vie, je fais, et puis voilà.
Complètement. Bah, partout que tu ailles dans le monde en général, tu finis toujours dans des auberges de jeunesse où tu rencontres des gens. Il y a toujours un gars dans une auberge qui est là, qui vit là depuis 3 mois et qui travaille depuis son ordinateur ou qui écrit un livre et qui réalise son rêve. Puis qui t'en parle le soir autour de bière et tu es là, tu es un peu bourré et tu te dis putain, mais grave, c'est trop bien, c'est ça que je veux. Et après, ça fait naître des nouveaux désirs en toi, quoi. Comme je dis, des désirs qui ne seraient pas nés si tu étais resté dans ton quotidien, si j'étais resté dans mon quotidien en France avec les potes que j'avais à
Ouais,
l'époque.
plus difficile d'arriver à rencontrer des gens qui sont sur des modes de pensée différents
Ouais.
quand tu restes dans ton
Ouais.
cadre habituel, quoi.
Plus difficile mais possible. Ça, c'est une réflexion que je m'étais faite aussi. Je m'étais dit, putain, pourquoi en voyage je rencontre des gens trop cool, trop, comment dire, extraordinaire entre guillemets, et ils sont dans toutes les villes du monde, mais ils sont pas à Lyon. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils étaient à Lyon, ils sont là à Lyon, je les ai rencontrés, toi je t'ai rencontré, et il y a plein de gens qui font des trucs qui m'inspirent, on va dire. Mais c'est juste qu'avant de partir voyager, j'avais pas une ouverture assez importante envers les autres peut-être, et j'avais pas rencontré ces gens-là qui existaient dans ma ville, qui vivaient dans ma ville, je les avais pas rencontrés en fait.
Ah donc tu penses que ça vient plus de toi et ta manière de voir les choses que d'un endroit géographique particulier quoi.
Ouais, moi c'est le voyage qui m'a ouvert, mais il n'est pas nécessaire. J'aurais pu changer, je sais pas, aller voir un chaman à Croix-Rousse qui m'aurait fait
Bon.
fumer un truc, et peut-être que ça m'aurait fait changer d'état d'esprit aussi. Je sais pas. Comment ça s'est passé pour toi, du coup, à la sortie de tes études?
Sortie des études, je voulais faire. À la base, je voulais faire ingénieur informatique. Et ça a vite changé parce que je me suis vite rendu compte que je voulais pas du tout être dans le calcul et dans le pur rationnel tout le temps. Que je voulais un peu plus être dans ce qui était pas artistique, mais un peu plus dans la conception visuelle. Du coup, c'est là où je me suis porté sur 1 an de remise à niveau en art appliqué. Et après, j'ai bossé sur ce qu'on appelait les métiers d'infographiste et de graphiste à l'époque pour faire du print, faire du web, des trucs comme ça. Et en faisant ça, après, j'ai monté mon studio de web et du coup, je me suis mis à bosser dans le web. Et puis après, au final, ça a continué à évoluer. Mais c'est vrai que j'ai fait qu'un an en alternance, donc en tant que salarié, entre guillemets. Et très rapidement, je me suis rendu compte que le fait d'être dans une case où tu es censé faire ton métier ou ce qu'on te donne le lundi à faire sur ton planning, que tu es censé dérouler ça sur ta semaine et puis que le lundi d'après, on te redonne ton planning et tu es censé faire ce qu'il y a sur ton planning, c'était quelque chose que j'avais beaucoup de mal à tenir parce que en faisant mon travail, je me rendais compte qu'il y avait des choses qu'on pouvait optimiser ou qu'on pouvait faire différemment, ou tu vois.
Donc tu
Et
n'avais pas la liberté de faire
que
parce
du
que
coup,
tu étais
tu
dans ce
proposes aux
cadre-là, quoi.
autres en disant, bah voilà, moi, mon métier, c'est de faire ça, mais j'ai fini de le faire mardi alors que j'aurais dû le finir jeudi. Ça fait qu'il me reste 2 jours. Pendant 2 jours, je peux faire autre chose, qui permet d'optimiser tel machin et tout. Et là, le problème de l'entreprise, souvent, c'est que ils ne savent pas trop comment gérer ça. Parce que ce n'est pas censé être ton poste et ton métier. Les dirigeants ou tes managers, ils ne savent pas non plus comment gérer ce truc-là, parce que ça veut dire que tu commences à être autonome sur un autre truc que même eux, ils n'ont peut-être pas forcément réfléchi. Et donc du coup, tu te retrouves à être
Un peu rasé, quoi, en fait.
dans une espèce de bulle qui fait chier le monde. Et je me suis dit, en fait, je vais faire chier tout le monde. Et il vaut mieux que j'essaie de faire mon truc à moi et voir comment ça se passe. Après, le fait d'être seul, ça te fait toujours un petit peu peur aussi de te lancer seul. Mais c'est rapidement, j'ai trouvé des potes avec qui monter l'activité. Et après, quand tu montes ta boîte et que tu commences à réfléchir à tous les process de ton entreprise, la partie management quand tu embauches quelqu'un et compagnie, ça t'ouvre un peu tout le spectre où tu peux plus rester juste centré sur ton métier, quoi. Au bout d'un moment, tu peux plus te dire, je vais faire juste de la conception design de site web, parce qu'il faut que tu gères aussi l'administratif, les rendez-vous clients, la facturation, ces machins-là. Et donc à ce moment-là, je pense que ça commence à t'ouvrir un peu le champ large en te disant, ok, donc un métier, c'est pas juste faire et concevoir un truc, c'est aussi plein d'autres trucs autour. Et quand tu commences à concevoir qu'il y a plein d'autres trucs autour, tu commences à pouvoir y greffer aussi d'autres briques. Dont les briques de, par exemple, pour faire du design, tu as besoin d'avoir une grosse part d'inspiration. Donc l'inspiration, tu te dis, ça se greffe là-dedans. Quand tu es sur des parties techniques pour du web, tu te dis, tu as besoin de faire de la recherche. La recherche et de la veille. Et du coup, quand tu commences à faire ça, tu te dis, si je peux faire ça pour une activité pro, je peux faire ça pour moi. Donc tu te mets à faire de la recherche et de la veille pour toi aussi. Et après,
Tu connectes
ça t'ouvre complet.
un peu comme t'as déjà entendu le discours de Steve Jobs qu'il a fait à Stanford là, en 2005.
Je crois que j'avais déjà entendu, mais je me rappelle pas
Super
de.
cool, où il explique comment s'est déroulée sa vie, comment il a connecté les choses qu'il avait développées, les compétences qu'il a développées, il les a connectées pour créer pour être une comment dire pour créer quelque chose et être une pointure dans son domaine, quoi.
Oui, parce que de ce que j'avais lu aussi sur Steve Jobs, dans tous les cas, c'est typiquement le profil, justement, avec un peu un cerveau designer, c'est-à-dire, il connaît pas parfaitement les choses dans le détail et il saurait pas parfaitement développer un truc ou parfaitement faire du marketing ou parfaitement faire du commercial, mais par contre, il connaît un peu tous les concepts et du coup, en les connaissant, il sait que quelles associations il faut faire, quelles recettes il faut mettre en place pour que ça puisse dérouler. Et donc après, derrière. Oui, il trouve les bonnes personnes qui développent ces parties-là. Et au final, ça se mélange bien et ça avance pas mal, quoi.
Et comment tu as fait pour en aboutir à ton job de facilitateur? Ça m'intéresse.
Du coup, tu as inversé le podcast. C'est ton podcast maintenant. Non, je rigole. C'est moi qui parle de moi.
C'est vrai. Parce que ça va aboutir à un sujet.
On viendra. Ah, d'accord. C'est pour faire un sans transition sur tes sujets.
Bah, sinon, si tu veux, je parle de moi.
Non, t'inquiète, t'inquiète, c'est bon. Facilitateur. Et bah, là, ça peut rejoindre un peu ce qui est lié à ce que toi, tu fais autour de ton métier. C'est que quand tu es sur un profil de design et que ton objectif, c'est de régler des problèmes et que les problèmes, tu ne peux pas les régler seul parce que quand c'est des problématiques complexes comme des problématiques sociétales, d'organisation ou très techniques, tu as besoin d'être entouré de gens qui sont complémentaires à ce que toi, tu peux apporter. Mmh. Donc là, tu rentres dans le travail collaboratif. Et quand tu es dans le travail collaboratif, les gens, si tu les mets juste autour d'une table ensemble, ils n'arrivent jamais à collaborer. Ouais. Il faut qu'ils puissent avoir des outils pour bien collaborer, pour s'écouter, il y a plein de choses. Donc ça, c'est de la facilitation. Mmh. Et donc voilà, c'est pour ça que j'en suis venu là, parce que je me suis mis à remonter sur des problématiques qui étaient plus stratégiques, plus complexes. Et quand tu rentres dans la complexité, tu es obligé de t'accompagner d'autres expertises, d'autres points de vue.
D'accord.
Et donc tu fonctionnes sur ce format-là. Et le format qui fonctionne le mieux pour la collaboration, c'est d'être pendant 1, 2, 3 jours autour d'une même table avec les bons outils pour collaborer. Quoi.
Ouais. C'est les fameux sprint design que tu fais.
C'est les fameux sprint design que je fais, ouais.
Les fameux. Okay.
Mais c'est là où je trouve la bonne jointure avec ton métier aussi, c'est que je ne connais pas de manière précise l'ostéopathie, mais c'est un sujet qui traite le corps, la problématique physique du corps.
Ouais.
Mais le fait que tu aies aussi des dimensions psychologiques qui puissent bloquer le corps, ça fait que ça devient complexe et que toi, en tant que un cerveau, arriver à avoir vraiment une connaissance profonde de la psychologie, du corps, on peut même rentrer après sur les dimensions énergétiques et toutes les autres dimensions qu'il peut y avoir, sur l'environnement, sur plein d'autres trucs, ça commence à faire beaucoup pour une seule personne.
Ouais.
Donc, c'est là où il y a peut-être besoin justement, comme tu as fait toi, de faire déjà tes propres recherches et puis de te connecter avec des gens qui font des choses complémentaires à toi. Quoi.
Ouais, c'est ça. Déjà, tu te formes pour être le plus compétent possible en fonction de tes affinités que tu as avec les sujets. Moi, il y a des trucs qui m'intéressent plus que d'autres. L'énergétique, ça m'intéresse beaucoup. Il y a des trucs qui m'intéressent moins, comme… je sais pas, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent quand même. J'ai pas d'idée de ce qui m'intéresse pas, mais ouais, déjà, tu creuses… par toi-même, puis après tu t'entoures des personnes compétentes avec qui tu t'entends bien pour et c'est ça qui m'intéresse parce que là j'ai un rôle de facilitateur maintenant avec mes sportifs, c'est des sportifs qui travaillent à l'étranger et qui des fois changent de club entre chaque saison et ils se retrouvent tout seuls entre les saisons à devoir s'entraîner, à devoir faire leurs soins, etc. Et moi là mon job ça va être, ça l'a déjà été cette année, ça va être d'organiser leur break d'été quoi. Pour répondre à leurs demandes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va me dire voilà, moi j'ai eu mal au genou en fin de saison, qu'est-ce que t'en penses? Donc, je vais lui trouver un kiné pour travailler sur tel ou tel truc. Moi en même temps, je vais le voir en ostéo, puis ensuite on va transférer le travail du kiné vers un travail de préparateur physique, etc. Et moi je suis un peu la pièce centrale avec ces joueurs où je les oriente à droite à gauche. Donc ça crée tout un travail en amont de connexion avec des gens de confiance, des gens qui travaillent un peu dans la même façon de faire que toi, avec la même vision, on va dire.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment. C'est en train de changer mon quotidien, tu vois. Je passe beaucoup de temps à rencontrer les gens, à échanger avec eux et ça va me permettre d'être encore plus performant dans cette demande de facilitateur que les joueurs vont avoir pour moi, quoi.
Parce qu'eux, ils cherchent vraiment un accompagnement complet. Enfin, eux, en gros, ce qu'ils veulent, c'est être performant et être en santé.
C'est ça, ouais.
Et donc, du coup, le fait de collaborer avec toi, ça leur évite de devoir réfléchir sur… sur quel type de praticien ils doivent aller voir, sur essayer de comprendre comment leur corps fonctionne d'eux-mêmes. Quoi. Ouais. Là, au moins, en se reposant sur toi, ils savent que tu vas pouvoir trouver le mieux pour eux.
Je pourrais leur orienter en fonction, puis les soigner moi, évidemment, mais bon, en tant qu'ostéo, on n'a pas toutes les clés, comme on disait, et ouais, je pourrais leur orienter. Parce que les joueurs, ils ont des agents, mais les agents sont là pour le business, pour leur trouver du coup des clubs et des gros contrats, en gros. Mais au niveau santé, les agences connaissent des médecins en Europe, etc. Mais voilà, ils n'ont pas le réseau qu'il faut dans une même ville pour pouvoir faire en sorte que le joueur soit pris en charge de manière globale et efficace le temps de 2-3 semaines pendant l'été.
Ok, d'accord.
Donc ça, c'est une nouvelle facette de mon boulot que j'ai vraiment découvert cet été et qui est super cool.
Du coup, comment tu vois les autres praticiens réagir par rapport à ça? Est-ce que tu sens que les autres praticiens, par exemple, je sais pas, les psychologues, les kinés, les praticiens énergéticiens ou quoi, comment tu sens qu'ils réagissent par rapport à ça? Est-ce qu'eux aussi sont en recherche de cette complémentarité et de travailler en collaboratif
Tout le monde est un peu dans cette recherche, mais ça, c'est dans la tête des gens. Après, il y a peu de gens qui sont dans l'action. C'est-à-dire que pour connecter, il faut prendre du temps. Pour prendre du temps, faut annuler des demi-journées, des journées de travail pour aller rencontrer les gens. Donc, du coup, tu diminues ton chiffre d'affaires, etc. Donc, ben, vu que sur une année, tu dois payer en général le chiffre d'affaires de l'année d'avant, tu es tout le temps pris dans une sorte
Ouais, d'engrenage.
d'engrenage qui fait que tu as peu de temps au final. Donc, tu ne peux pas rencontrer les gens. Donc, il y a cette envie de la part de tous les thérapeutes de connecter, enfin, tous, pas tous, hein. Il y en a qui sont très fermés, mais la plupart sont ouverts et ont cette envie-là, mais peu passent à l'action. Exemple typique, moi, je suis allé observer là pendant l'année. J'aime bien aller observer mes collègues pour voir comment ils travaillent, pour voir s'il y a moyen de travailler ensemble. Et je sais pas, je suis allé observer dans l'année, je dirais 15 personnes. Et il y en a peut-être deux qui sont venus m'observer en retour. Pas parce qu'ils n'avaient pas envie, hein, mais parce qu'ils n'ont pas le temps en fait. Les gens
Ouais, je vois ce que
ne
tu veux
prennent
dire.
pas le temps de. Enfin, s'imposent pas la discipline qui devrait pour prendre du temps, quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux
Si,
dire.
si, je vois très bien, ouais, parce que
Ouais.
je suis face un peu au même type de. Je me rends compte qu'il y a le même type de comportement aussi dans les autres métiers. Tu vois, par
Ouais, je
exemple,
pense.
pour ce qui est des designers, c'est un peu pareil. C'est, t'as des designers qui ont clairement besoin d'être connectés à des gens qui sont dans la rédaction de contenu,
Ouais.
dans le développement, dans plein d'autres machins. Et ils vont galérer pour arriver à trouver les personnes qui correspondent, parce que justement ils n'ont jamais le temps de le faire. Donc en fait ils vont juste aller faire une recherche sur des plateformes, genre sur Malte ou sur des machins comme ça, et ils vont réussir à trouver vite fait quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et
Ouais.
après derrière ça va au final créer plus de problèmes, parce que vu qu'il n'y a pas eu cette recherche en amont et que ça a été précipité, le feeling passe pas forcément bien, ils collaborent pas forcément bien non plus, et du coup, tu vas te retrouver à avoir été un peu la tête dans le guidon au début et dans le rush à trouver quelqu'un. Tu te dis ça va, ça s'est vite fait, t'es content. Et puis après le projet, tu te rends compte que pendant 3-4 mois, c'est la galère, parce que tu t'entends plus avec le gars, parce que le gars il a pas fait le boulot comme il faut. Et donc au final, cette notion de temps, elle est vraiment très relative, parce que souvent tu te dis j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et au final, c'est en faisant comme ça que tu en perds encore plus.
Ouais, carrément. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec Jean-Marcel Ferret, donc c'est le médecin avec qui j'écris le livre. Et donc ce gars, il était médecin de l'équipe de France en 98 quand on a gagné la Coupe du Monde. Et je lui avais demandé comment il faisait pour communiquer avec les clubs, etc. Et lui, ce qu'il m'avait expliqué, et ça m'a un peu marqué, c'est qu'il avait pris le temps, il s'était dégagé de ses fonctions, il était à l'OL, et il s'était dégagé de ses fonctions de l'OL pour pouvoir passer 6 mois 100% sur le projet équipe de France. Donc il était allé rencontrer tous les médecins des gros clubs, du Milan, etc., là où il y avait les joueurs principaux français qui jouaient, pour pouvoir créer une connexion, un suivi médical entre les clubs, etc. Et il me dit que ça a été essentiel de rencontrer les gens physiquement, comme tu dis, ça prend du temps, mais après ça t'évite d'en perdre derrière. Parce que s'il y a une blessure d'un joueur, le club, en connaissant le médecin et la rigueur et la compétence du médecin français, va pas porter plainte, va discuter, etc. Puis ça évite d'énormes problèmes. Mais ça demande de prendre du temps à la base pour rencontrer les gens physiquement,
Ouais,
quoi.
c'est ça, c'est une grosse problématique actuelle, je trouve. C'est que. En fait, on est tellement été. On est toujours dans un espèce de paradigme de la productivité, du faire. Des fois, du faire pour faire, quoi. Après, c'est du faire pour gagner de l'argent. Bon, du coup, ça justifie le fait de faire pour faire, même si c'est pas forcément utile derrière, ou si ça peut te créer d'autres problèmes. Mais tu te dis, tant que je fais et que ça me rapporte de l'argent, alors dans ce cas-là, il faut que je continue comme ça. Mais tu te coupes après en faisant ça de beaucoup de choses.
De beaucoup de choses. Au final, tu perds de la richesse. Là, la discussion qu'on est en train d'avoir, c'est enrichissant. Et je pourrais être, mais je perds de l'argent sur le papier, je perds de l'argent. Je pourrais être en train de faire des séances et j'aurais pu gagner, je sais
Oui, bah
pas,
oui, parce que là, moi, c'est
150
pareil, oui.
euros dans les 3 heures que je vais prendre. Toi,
Là,
c'est pareil.
c'est mercredi, c'est 14h. Quelle heure c'est? Ah, j'ai pas l'heure là. Bon, c'est pas grave. Je crois que c'est 14h30, un truc comme ça. Et 14h30, bah, on est en train de discuter pour un podcast, alors qu'on devrait peut-être être en train de bosser pour des projets qui rapportent de l'argent.
Ouais, mais au final, si tu réfléchis beaucoup, ce qu'on fait, c'est aussi moi. Enfin, moi, personnellement, ça me sort la tête du guidon, ça me permet de réfléchir en même temps que je parle. Et ça me permet aussi de, comment dire, de comprendre que l'argent n'est pas. Enfin, à partir d'une certaine somme d'argent par mois, tu peux. Enfin, t'es bien, quoi, t'as pas besoin de plus. Il y a peu de gens, en fait, qui comprennent ça. Ils sont pris dans des trucs, ils veulent toujours
Ouais, non,
plus.
c'est sûr. Bah après, il y a aussi le. Certains pourront dire, et ils auront raison, c'est qu'on est quand même des privilégiés, quoi. On est quand même dans une situation privilégiée. On est dans une ville où on est bien, où
Ouais,
on
non,
est dans
c'est
une sorte
clair.
de confort parce qu'on a notre appartement, et on gagne tous les mois suffisamment d'argent pour pouvoir se permettre de faire un podcast pendant une heure,
Ouais, c'est
machin.
sûr.
Donc c'est sûr qu'après, on peut tenir des propos en disant oui. Faut se dégager du temps pour pouvoir rencontrer des gens et faire des trucs à
Ouais.
côté. Alors que tu en as certains et s'ils ont
Oui.
été dans le guidon, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il faut qu'ils fassent
Oui.
rentrer de l'argent suffisamment pour pouvoir se payer à manger, nourrir.
Non, c'est
On n'a
clair.
pas d'enfants non plus, donc
Oui.
du coup, tu pourrais te dire ça, c'est bloquant.
Ouais.
Mais là où je te rejoins par contre, c'est que oui, tu as d'autres profils de comportement qui sont dans le toujours plus en fait. À savoir pourquoi c'est motivé, je sais pas, des fois peut-être besoin de sécurité ou quoi que ce soit. Mais le profil typique de. Moi par exemple, ça fait plusieurs fois qu'on me demande, et d'autres amis qui sont indépendants aussi, on leur dit, ben voilà, donc ton activité fonctionne bien, mais tu es en micro-entreprise, donc ça veut dire que ça marche bien, tu peux monter ta boîte. Et moi à chaque fois, je leur dis, ben non, parce que en fait j'en viens, quoi. J'ai fait 4 ans de SARL, je sais très bien combien ça coûte de gérer une boîte, je sais très bien combien ça coûterait aussi d'embaucher quelqu'un. Et là, après, tu rentres en effet dans la tête dans le guidon, parce que pour pouvoir payer toutes les charges qui sont liées à tout ça,
Oui, c'est sûr.
et ben, tu te retrouves à galérer. Et là, après, tu es coincé. Alors que là, en étant sur un profil d'indépendant, en France, mine de rien, on a encore de la chance avec ce profil de micro-entreprise, c'est que tu peux arriver à ton plafond de 34 000, et mine de rien, si tu arrives à taper ton plafond de 34 000, tu es déjà à peu près autour de 2 000 nets par mois. Ce qui est une somme qui est plutôt confortable quand toi tu vis dans une ville comme Lyon. Je ne dis pas pour Paris, ça serait peut-être un peu plus compliqué,
Peut-être, ouais.
mais pour Lyon, c'est quand même pas trop mal, quoi. Donc
Ouais, c'est clair.
après, c'est ouais, à réfléchir par rapport aux ambitions, aux choses comme ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et toi, du coup, donc, on va dire que tu es dans une situation qui est plutôt confortable, tu n'as pas à courir
Non.
après l'argent. Et plutôt que te dire, ouais, tu t'es pas dit, faut que je monte un cabinet.
Bah non, mais c'est ce que les gens me disent en fait, ça me fait vraiment penser à ce que tu dis. Déjà, j'ai pas couru après l'argent parce que j'ai pas envie. Bon, j'ai l'expérience qui fait que je sais que c'est pas le facteur numéro un qui me rend heureux, bien sûr, il m'en faut un peu, mais voilà, enfin, ça change rien. Je gagne 2000 euros ou 3000 euros ou 4000, ça change très très peu dans mon bonheur. Et moi aussi, on me dit beaucoup ça parce que je suis collaborateur dans le cabinet. En
D'accord.
fait, je travaille 3 jours au cabinet en tant que collaborateur, donc mes journées sont pleines. Et rien qu'en 3 jours par semaine, bah, je peux gagner un salaire qui me fait vivre. Puis à côté, je peux faire plein d'autres trucs gratuitement si je voulais. Donc,
Ok.
vu que je fais payer, voilà. Mais bien sûr que tout le monde me dit, putain, mais pourquoi tu montes pas ton cabinet? Et c'est difficile. Enfin, je leur explique, mais ils comprennent pas trop, quoi. Je leur explique la même chose. Je leur dis que là, bah, voilà, j'ai une secrétaire, j'ai un cabinet avec zéro problème administratif à régler. J'y vais, je travaille. Et voilà, pourtant, j'ai tous les avantages d'avoir. Enfin, ce serait pareil si j'avais mon cabinet, j'ai mes propres patients, etc., qui me connaissent, on s'entend très bien. Mais ça me décharge de beaucoup de contraintes, ça me libère beaucoup de temps. Au final, c'est sûr que je ne peux pas faire un chiffre d'affaires je sais pas combien, 100 000 euros
Ouais, bien
par
sûr.
an, ou j'en sais rien.
Oui, c'est un peu comme moi.
Mais.
Quand je travaille de chez Sofa.
Ouais.
J'ai le confort de pouvoir avoir un endroit où je peux recevoir des gens pour le podcast, pour les rendez-vous, pour
C'est
faire de
ça,
temps en temps des travaux, mais j'ai pas à m'occuper de l'entretenir, de le
ouais.
nettoyer, de gérer l'administratif du lieu ou quoi que ce soit. Et pareil pour la micro-entreprise, j'ai juste à déclarer tous les mois ce que je gagne et j'ai pas à avoir d'expert comptable, de la paperasse pour ci, pour là. C'est assez confortable aussi,
C'est
quoi.
confortable, ouais. Il y a juste ton ego qui est pas satisfait en disant j'ai pas ma propre entreprise, j'ai pas mon truc, y a pas mon nom en gros sur le cabinet, mais
C'est
enfin
quoi ton point de vue là-dessus d'ailleurs, ouais,
ça je m'en fous.
sur le fait de prendre le chemin, de se dire, oui, de prendre le chemin, de se dire, bon bah écoute, là j'ai mon activité, elle tourne, je suis bien. Comment est-ce que je peux faire pour greffer d'autres choses autour de mon activité qui sont connexes à ça, un peu ce que tu as fait toi. On détaillera un peu plus là-dedans. Je pense que ça peut être intéressant que tu nous dises un peu tout l'écosystème que tu as construit autour de ton activité pour que ça définisse vraiment ce que tu as construit. Mais du coup, qu'est-ce qui pour toi expliquerait le chemin un peu plus classique. Le fait de se dire, bon, là j'ai monté mon activité d'ostéo, ça marche bien, donc du coup bah, maintenant il faut que ça marche plus, donc ça veut dire qu'il faut que j'ai mon cabinet, qu'il faut que je fasse
Ben, je
plus de
pense que
com, faut
ouais.
que.
Je pense qu'il y a une petite part d'ego, c'est le premier truc qui me vient en tête, mais en fait, le plus gros facteur, je pense, c'est les croyances des gens, c'est-à-dire l'idée que les gens se font de la réussite. Par exemple, mon père, il a du mal à accepter que. Enfin, il a du mal à accepter, mais il ne comprenait pas au début que je gère mon temps de cette façon-là. Pour lui, réussir sa vie, c'était, en tant qu'ostéopathe, hein, c'était ben, travailler 5 jours par semaine et gagner 5 000 euros par mois. Parce que voilà, tu fais des études d'ostéo, donc tu fais de l'ostéo et tu fermes ta gueule.
Ouais.
Non, je plaisante, mais. C'est un peu l'idée qu'il a de la réussite. Et forcément, via tes parents, bah, tu te forges des croyances et des objectifs, mais qui sont pas forcément les tiens, en fait, qui sont ceux que la société et tes parents t'ont mis dans la tête, dans ton inconscient, souvent, au fur et à mesure de ta croissance, de ta vie, quoi.
Donc toi, au niveau de tes parents, enfin de ton père, c'était plus ce concept-là, c'était plus sur la réussite en fait. C'est de se dire, bon, si jamais tu travailles toute ta semaine et tu gagnes le plus d'argent possible, alors dans ce cas-là, ça veut dire que tu es dans une situation de réussite.
Ouais, je pense, ouais. Ce serait bon s'il écouterait ça, il serait peut-être pas content, mais. Mais ouais, souvent, tu vois, au début c'était marrant, je disais, il me disait alors aujourd'hui t'étais au cabinet et tout, puis souvent je dis bah non, j'étais dans un café en train de bosser sur des trucs, il fait ah ouais, et puis à chaque fois il me dit mais tire ton camp au cabinet, genre tu vois, c'est pas normal que tu sois pas au cabinet, qu'est-ce que tu fous quoi. Et c'est intéressant, mais ça se trouve il s'en rendait pas compte, là faudrait qu'il écoute le truc pour voir, mais peut-être qu'il se rend pas forcément compte de ça. Mais oui, je pense que en tant que père, lui, son idée de ma réussite était que je travaille beaucoup, que j'ai beaucoup de monde en ostéo et que je sois respecté et que voilà, que je travaille beaucoup, que je sois plein, tu
Ouais, tout le temps plein.
vois.
Tout le temps plein et tout en travaillé.
Ouais.
Mais oui, c'est ça. Et je vois bien ce. C'est marrant parce que moi, j'avais aussi ce paramètre-là à la base. Quand on a monté la boîte, c'était vraiment. Bon, bah, faut que ça grossisse, quoi.
Ouais.
Faut qu'on ait plus de clients, faut que les clients soient plus gros, faut que du coup, on puisse facturer plus, faut qu'on puisse embaucher. Après, on changera de locaux, on aura des locaux plus grands, du coup, on pourra embaucher plus. Et puis, du coup, on bossera peut-être à l'échelle Europe au lieu de bosser qu'à l'échelle France. Et puis, toujours plus, quoi. Et je ne m'étais pas posé la question à l'époque, c'était il y a 8 ans maintenant, donc ça commence à faire, mais 9 ans même. Putain, non, tant de temps. Oh là,
Merde.
ok, ça y est, je suis vieux. Quand je faisais ça, c'était vraiment, je suivais cette espèce de fil. Bon, j'ai monté mon activité, ok, je gagne un peu d'argent, c'est cool, donc du coup, il faut qu'on en gagne plus. Et puis, hop, tu rentres là-dedans comme si c'était normal. Et moi, je me rappelle que mon moteur, au final, quand je l'analysais plus tard et que je me suis rendu compte, c'était pas le côté réussite ou le côté vraiment être plein, parce que mes parents m'ont jamais mis dans ce paramètre-là, mais plus dans le paramètre si tu gagnes de l'argent, assure-toi d'en gagner suffisamment pour en mettre suffisamment de côté pour que tu risques pas d'en manquer. Et que même quand j'avais le paramètre dans ma tête qui était bon, il faut que j'ai 3 mois d'avance, comme ça, si jamais tout s'effondre, j'ai 3 mois pour pouvoir venir, tu avais toujours une deuxième voix qui remontait. Peut-être la voix qui venait de ma mère, qui avait un peu plus d'envie, de besoin de sécurité financière, qui me disait toujours, oui, mais quand même, tu as 3 mois d'avance, mais si tu peux avoir 6 mois, c'est quand même pas mal. Et puis après, au fur et à mesure, c'est, bon, voilà, bah tu gagnes plus d'argent. Donc, si au lieu d'avoir des mois d'avance, tu peux aussi avoir assez d'argent pour pouvoir t'acheter de l'immobilier, ça peut être cool. Et puis, hop, et ça s'arrête jamais, en fait.
Ouais, c'est sûr.
Et du coup, ça rejoint une étude que j'avais vue sur. Justement, à savoir si les gens qui étaient très riches étaient plus en détente par rapport à l'argent que les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et en fait, l'étude montrait que c'était quasiment pareil. Parce que dès le moment où tu passes 100 000 euros de côté, dans la tête de quelqu'un qui a 100 000 euros de côté, il faut surtout pas qu'un jour ça baisse. Il est dans une logique de croissance en fait de son argent. Et si jamais un jour il voit que ça stagne ou ça baisse, ça veut dire que ça va plus et que ça va tout s'effondrer. Et donc du coup, cette espèce de peur-là fait que il faut toujours qu'il gagne plus. Et après, ça devient même le pourcentage de croissance. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, sur une année a gagné 30 000, si l'année d'après il a gagné que 25 000, là pour lui, ça va plus quoi. Tu vois? C'est en train de chuter.
C'est ce
Il
qui m'arrive cette année.
faut toujours qu'il y ait une marge de progression, il faut toujours que ça gagne plus, parce que sinon ça veut dire qu'il commence à y avoir un truc critique qui ne va pas. Et du coup, après, ça renvoie. Et donc, voilà, l'étude montrait ça pour dire que même les gens qui peuvent avoir 1 million ou 2 millions ou 50 millions d'euros de côté feront toujours en sorte d'avoir de la croissance et d'augmenter leur truc, parce que ça veut dire que sinon, ils sont en train de rater quelque chose. Donc, ce n'est pas la quantité d'argent qui te dit que tu es en sécurité ou que tu réussis, c'est comment est-ce que ça progresse. Et du coup, ça, c'est assez.
Ouais, c'est intéressant d'aller creuser les raisons, d'aller consulter un psychologue peut-être pour voir ce qu'a mis en place ce genre d'insécurité quoi, quand tu es dans ce schéma-là. Moi, ce que je suis content en fait, parce que je réalise que mon chiffre d'affaires va diminuer cette année, parce que j'ai dû prendre plus de temps pour préparer mes projets, etc. J'ai dû voir moins de patients, donc gagner moins d'argent. Puis j'ai dépensé plus d'argent en formation aussi. Donc, bref, mon bénéfice il diminue, je suis content quoi.
Ouais, ça te pose pas de problème.
Non, 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 parce que je crois que bon, j'ai eu longtemps cette peur du manque, hein, par contre. Il ne faut pas faire le malin ou quoi, hein, parce que cette peur de manquer d'argent, je l'ai eu beaucoup. Quand tu sors de l'école d'ostéo, tu es dans un marché où il y a énormément de monde et c'est dur. C'est dur d'être inconnu, d'avoir des gens, tout ça. Là, je suis quand même conscient maintenant que j'ai des compétences que d'autres n'ont pas et que je suis en train de développer des compétences que d'autres n'auront pas. Ce qui fait que normalement, je confiance en l'avenir, je ne devrais pas avoir de problème pour pour être plein, quoi, entre guillemets.
Et ben, rebondissons là-dessus, alors, toute la constellation que tu as construite autour de ton activité d'ostéo, elle a commencé par quel axe et comment ça s'est
Alors,
fabriqué un petit peu?
bah, ça s'est fabriqué, bon, ça s'est fabriqué par un désir de partager ce que j'avais vécu en voyage et d'inspirer les gens via des conférences. Donc moi j'avais peur de parler devant les gens, tout ça, il y a encore 4 ans, 5 ans. Mais j'avais cette envie de partager. Donc, du coup, bah, j'ai pris des cours hein, de prise de parole en public parce que ça s'apprend. Et puis j'ai bien kiffé le truc. Donc après, au bout de quelques mois, j'étais un peu plus en confiance. Et bah, Julien, un ami, m'a proposé de faire une conférence, lui qui en avait déjà fait. Je me suis dit, bon, parfait. Et donc j'ai dit, ok. Et on a construit, enfin, ouais, construit et donné cette conférence au Mama Shelter, peu importe, sur Lyon. Et ça s'est très bien passé. Et j'ai aimé l'expérience. C'était une sorte de
Conférence sur le
test.
voyage, du coup.
Ouais, c'était sur le, je parlais de voyage et de santé et puis de développement personnel, ce genre de choses.
D'accord,
Je
donc là,
mixais un
tu
peu tout.
commençais un petit peu à introduire le lien avec ton activité principale, mais
Ouais,
sans plus que ça,
pour
quoi.
l'instant c'était
Ça restait
assez
encore à côté,
différent.
d'accord, ok.
Et j'ai vu que je pouvais prendre du plaisir à raconter des trucs, que j'avais des expériences qui étaient cool à partager. Parce qu'au début, tu es toujours un peu comment dire, sceptique, tu te dis, bon, ce que je raconte, ce que j'ai vécu. Peut-être que c'est de la merde au final, puis que les gens s'en foutent. Mais là, non, les gens ont validé. Et puis à côté, j'ai commencé à écrire un blog dans lequel je partageais aussi mes réflexions, mes aventures. Et les gens ont pas mal validé aussi. Donc moi, ça m'a rassuré et poussé à continuer parce que j'aimais ça, quoi. Donc au début, ça parlait beaucoup de voyage, de développement personnel. Et puis petit à petit, j'ai pris confiance en mes capacités pour parler de choses en lien avec mon métier et la santé. Parce que pareil, quand tu es thérapeute, tu as toujours le. T'es pas en confiance quoi. Dans tes premières années, tu te sens pas de parler de certains sujets parce que t'as pas assez d'expérience, t'as un peu le fameux syndrome de l'imposteur
Ouais.
que tout le monde connaît. Et donc ça, moi j'ai du mal, enfin j'ai pris du temps à parler de ce que je faisais, de mon métier, tout ça, et au bout de 4-5 ans, j'ai eu une sorte de déclic, et là je me suis mis à parler de ce que je faisais en ostéo, donner des conseils santé, et puis les gens aimaient bien, j'étais légitime, et je me sentais légitime, et donc ça a libéré un truc en moi, et il y a beaucoup de choses qui se sont déclenchées à ce moment-là. J'ai commencé à faire des vidéos sur Instagram, à donner des conseils santé, etc. Et pareil, les gens s'abonnaient, tout ça. Et il y a une présentatrice télé donc, qui m'avait vu faire ça et qui m'a contacté pour participer, être chroniqueur santé dans une émission. Donc là, pareil, je dis oui pour y aller, mais je savais pas si ça allait me plaire. Et au final, c'est un truc dans lequel
Ah,
je
tu
suis à
aurais pu
l'aise.
encore avoir le syndrome de l'imposteur.
Ouais, mais là, je l'avais pas du tout. Tu vois, à ce moment-là, j'étais déjà bien dans mon rôle. J'ai jamais vraiment eu peur. On me demande souvent, t'as pas peur à la télé, tout ça. Et non, en fait, j'ai pas du tout peur, bizarrement.
Ok.
Et après, plein d'expériences se sont enchaînées qui ont encore validé que j'étais capable. Parce que le livre que j'ai écrit avec Jean-Marcel Ferret, pareil, ça a validé un truc énorme. Moi, j'ai écrit un livre avec le meilleur médecin du sport de France, quoi. Le gars qui est champion du monde, qui est
Et
respecté
ça
dans
s'est
le monde
déclenché
entier.
comment, ça, du coup, dans tout dans tout cheminement?
Ça s'est déclenché parce que je commençais à soigner des sportifs de haut niveau.
Par le fait que tu avais ton compte Instagram, c'est ça?
Non, 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 par le
C'est par tes
fait
vidéos sur
que.
Instagram ou c'était par
Non, non, c'est
d'autres?
par mon réseau parce que je suis basketteur à la base.
D'accord, ok.
Donc ouais, je commençais à soigner les sportifs de haut niveau et par envie de bien faire, bah, je suis allé rencontrer des gens, dont Jean-Marcel Ferret, qui était pour moi la référence en médecine du sport, qui l'est d'ailleurs. Et bon, on a bien connecté tout simplement et je lui ai proposé un projet de livre parce qu'il avait beaucoup de choses à dire, il devenait vieux, je me suis dit putain, le gars il va aller à la retraite et tout ce qu'il a à dire, bah, ça sera dans sa tête puis il va mourir avec quoi, donc c'est dommage. J'espère qu'il écoutera pas ça. C'est pas que je le vois mort dans peu de temps, hein, pas du tout, mais il allait le garder pour lui et je me suis
Voilà,
dit
c'est ça.
c'est trop dommage.
Plus l'idée de se dire qu'il y a beaucoup de connaissances et d'expériences
À
qui
partager, ouais.
seraient parties dans la tombe alors que ça pourrait
C'est
être.
ça. Et puis c'est un mec qui est capable, qui a tellement tu sais, d'expérience et de compétences, qui est capable de vulgariser des trucs que les médecins en général rendent compliqués. Mais lui, il a
Il arrive à sortir
tellement
simple, quoi.
ouais, de condensé de savoir qu'il peut te sortir ça de manière simple. C'est génial quoi. Le
Ouais.
meilleur médecin du sport qui peut te dire des trucs très simplement que tout le monde peut comprendre. Et donc voilà, je lui ai proposé le sujet. Et après, bon, au fur et à mesure, tu discutes avec lui, tu échanges sur des cas cliniques en privé après avoir bossé. Et puis tu te rends compte qu'en fait, bah, ce qu'il fait, tu peux le faire au niveau des conseils, au niveau des diagnostics, etc. Et ça rassure en tant que thérapeute quand tu fais un truc et que tu te dis, je sais que là, Ferret, il aurait dit pareil que moi, il aurait conseillé la même chose sur ce sportif. Bah, rassuré quoi.
Mais tu as trouvé une relation un peu de
Ouais.
mentor-élève, quoi.
Ah ouais, carrément. Et puis tu sors de ce complexe que les ostéos ont par rapport aux médecins, tu sais. Les médecins sont souvent un peu vus comme comme au-dessus de toi hiérarchiquement. Alors, ils le sont, hein, mais au niveau de la connaissance, en tout cas en médecine du sport, moi je parle de ce que je connais le mieux, mais j'ai plus tout ce complexe. Enfin, je suis même conscient que je suis beaucoup plus compétent que la plupart des médecins généralistes en diagnostic en médecine du sport,
Ok.
clairement. Et ça, tu vois, j'aurais jamais osé dire ça il y a un an ou deux, quoi.
Ouais, mais le fait d'avoir
Mais.
ce rapport d'exploration que tu as eu,
Ouais.
d'oser aussi poser les premiers pas, parce que je suppose que pareil, quand tu as commencé à écrire ou à faire des vidéos liées à ton métier,
Ouais.
tu n'étais pas directement sur des trucs qui étaient très pointus en affirmant des choses, justement, comme tu viens de
Non.
dire là, quoi. Tu as commencé par
J'ai
des choses plutôt
tâtonné.
légères.
Ouais. C'est vraiment la validation progressive du public, entre guillemets, qui a fait que j'ai pris confiance et qu'aujourd'hui j'ai confiance. Alors, pas non plus une confiance extrême. En tout cas, j'essaye de pas être trop confiant parce que ce serait dangereux, quoi. Mais ouais, c'est venu petit à petit. Je suis en train de me dire que si les gens m'avaient vraiment remballé, tu vois, tu sais, des fois il y a des youtubeurs, ils sont démontés. Et
Ouais.
ils persistent et tout. Moi, je pense que j'aurais pas persisté.
Ouais, ça t'aurait bloqué direct.
Ouais, ça m'aurait bloqué, je pense.
Là, ça a toujours été fluide.
Et là, ouais, ça a été progressif. Et ouais, aujourd'hui, je pourrais parler, enfin, je dis n'importe quoi, mais au journal de 20h, devant 5 millions de personnes, de mon sujet, il n'y a pas de problème, quoi.
Ouais. Ouais, là, c'est ça. T'es à l'aise dans ton
Je suis à
sujet et tu
l'aise, puis
sais
il y a des
que.
trucs que je sais pas, puis c'est pas grave. Puis des fois, tu vois, tout à l'heure, il y a une patiente qui m'a appelé. On a fait une bonne séance et tout, elle venait de loin pour me voir. Et elle me dit que ce que je lui ai fait, ça n'a rien fait. Elle venait pour un problème vraiment particulier et je pensais que ça allait faire quelque chose. En fait, ça n'a rien fait. Et c'était cool, j'étais là, bon, bah, ok, alors bah, ce que je vous propose, c'est de réessayer voilà, de vous traiter d'une manière différente. Et puis si ça ne marche pas, bah, je vous enverrai vers d'autres collègues, j'ai des collègues compétents aussi. Et j'étais hyper serein en fait, j'avais aucun problème avec le fait que mon traitement n'a pas été efficace. Alors qu'à 2-3 ans, je me serais putain. Chier, enfin, je me serais pris la tête en me
Tu
disant
serais remis en
j'étais une merde, quoi.
question.
Ouais.
Ouais.
Donc.
Là, tu as fini. C'est peut-être aussi au bout d'un certain temps d'expérience, une acceptation du fait que ben, être très bon dans son domaine, ça ne veut pas forcément dire être dans
Être
la
infaillible.
perfection et
Ouais,
infaillible, quoi.
non, tu peux
C'est que
pas.
oui, tu peux te rater ou tu peux.
Ouais.
Ouais.
Tu peux passer à côté de ton truc. Il y a aussi un facteur, c'est qu'en ce moment, je suis en confiance. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui me réussissent. Et voilà, depuis 2 ans, c'est. Tout se passe très bien professionnellement, on va dire. Et demain, peut-être qu'il y a plein de choses qui vont moins bien se passer. Il va y avoir un enchaînement de trucs qui vont mal se passer, puis ma confiance va diminuer. C'est cyclique aussi, ce genre de truc. Et là, je suis conscient que je surfe un peu sur une période confiante, mais que la vague, elle peut se casser la gueule,
T'as
quoi.
cette vision-là, ouais, de la logique cyclique.
Ouais. Ah bah, carrément.
Parce que moi, je me pose souvent la question justement là-dessus, c'est j'ai un peu comme toi cette idée que c'est cyclique
Ouais.
et que du coup, ben, faut pas que je fasse trop le malin quand je suis dans une situation où ça va bien, parce qu'il
Carrément.
y a forcément un moment où il va y avoir un retour dans l'autre sens, des choses qui vont devenir compliquées alors qu'elles étaient simples,
Ouais.
et qu'à ce moment-là, il faudra être vachement réactif et accepter aussi que des choses se cassent la gueule alors qu'avant, tu arrives à étaler plein de trucs facilement. Mais après, je me pose aussi la question, justement liée à ce que tu disais sur être capable d'accepter de se planter et du coup de pouvoir rebondir par rapport à ça. Être capable de faire des choses parce qu'au final, on fait suffisamment confiance à ce qu'on est capable de dire ou de faire sur un domaine. On a plus ce syndrome de l'imposteur qui fait que du coup, bon, on fait les choses de manière détendue et que c'est beaucoup plus fluide. D'ailleurs, il pourrait y avoir une analogie avec le mouvement, quoi. C'est quand une personne commence à bouger détendue et qu'elle fait confiance à sa manière de bouger, elle se blesse très difficilement. Alors qu'une personne qui est dans le doute à chaque fois, qui hésite ou qui est un peu brusque ou quoi, elle a tendance à se blesser souvent. Donc du coup, je me pose la question, justement, par cette expérience qu'il y a quand on développe des choses, on n'arrive pas à créer une fluidité qui, au final, même si il peut y avoir des problèmes qui arrivent, on est capable de pouvoir réagir de manière plus fluide par rapport à ça, de rebondir, et qu'au final, le gros effondrement qu'on pourrait imaginer arriver, bah peut-être qu'en fait, il n'arrivera pas parce qu'on a réussi à construire des
Peut-être,
choses
ouais.
qui font que.
Ouais, c'est hyper
Tu vois,
intéressant. Et
c'est
ton analogie, je
le.
vois exactement le truc. Ce qui fait que quand tu te prends un truc dans la gueule, quand tu prends un obstacle, par exemple, quand tu as un mouvement, bah, tu peux l'éviter de te le prendre un peu, mais faire en sorte que l'impact soit pas trop.
Ouais, voilà.
Trop violent.
C'est ça.
Tu te le prends, mais tu te moules la forme de ton corps à la branche que tu vas te prendre dans le cou en train de courir si elle arrive devant toi. Et le choc sera là, mais sera moins important que si t'es allé à fond dedans, quoi. Si t'étais allé en mode rigide,
ouais,
tu
voilà,
te serais
c'est ça
cassé
un peu
vraiment
l'idée,
la nuque.
mais en effet, par contre, je pense que c'est un peu des deux, c'est de se dire, ben, quand il arrive des choses qui peuvent être compliquées sur un champ des connus, en fait, ben, ça peut être beaucoup plus souple et on se mange moins dans la face. Mais par contre, il arrivera toujours des choses qui viennent d'un angle qu'on n'avait jamais
Ouais,
connu
c'est
avant.
sûr, c'est
Et
sûr.
là, forcément, ça ramasse plus, quoi.
Ouais, ça ramasse. Mais c'est cool d'être conscient de. Moi, je trouve ça aussi bien dans les périodes où tu es plutôt down, je sais pas comment on dit. Il y a des périodes où tout va bien, des périodes où ça va beaucoup moins bien. Et donc, c'est bien de se dire quand ça va bien que ça va aller moins bien. Et quand ça va aller moins bien, c'est cool de se dire aussi que ça va aller mieux. Moi, j'ai cette sorte de confiance en la vie qui fait que quand il m'arrive un truc, bon, soit je me dis, bon, il t'arrive ça pour une raison, et tire-en les leçons que tu en as à tirer. Il y a la vie qui veut te montrer quelque chose. Donc ouais, soit je me dis ça, soit et puis je trouve une leçon à tirer, soit je trouve pas de leçon à tirer, mais je me dis bon, de toute façon la vie elle est quand même cool, tu vas remonter la pente, ça va aller quoi.
Et
Je me suis dit.
ça devient d'où, du coup, cette confiance en la vie?
C'est une sorte d'accumulation d'actions, de phénomènes qui sont passés dans ma vie, je pense, où je me suis dit putain, la vie est gentille quoi. Il y en a qui te diraient putain, j'ai un ange gardien qui me protège. Des fois je me le dis. Mais je préfère juste me dire que la vie, quand tu as cette souplesse justement dans la vie, bah, elle est là pour t'aider quand même. Il y a des signes
T'en
qui
as
te
rien comme
montrent
ça
que.
qui t'a marqué, que tu aurais envie de partager ou...
Ouais, carrément, j'en ai plein, mais il y en a un que j'ai raconté à une copine là récemment. C'était un truc de fou. Donc déjà, j'avais eu cette vision, je sortais d'une période vraiment down, rupture amoureuse, classique. Donc j'avais des vacances, je savais pas quoi faire, et donc j'imaginais des trucs, j'avais envie d'aller nulle part, j'imaginais prendre l'avion, aller un peu partout en Europe, mais il n'y avait rien qui tiltait, tu vois. J'imaginais des trucs, puis d'un coup j'ai imaginé, j'étais à moitié en train de m'endormir, et j'ai une vision où je me vois en train de faire du stop jusqu'à Gibraltar, de Lyon. Tu vois, alors je me dis, what the fuck, du stop à Gibraltar. Bon, j'avais déjà fait du stop, j'aimais le stop, hein, mais tu vois, et le fait d'avoir cette vision, ça restait en moi. Et donc je l'ai fait quoi. Je suis parti en stop quelques jours après à Gibraltar. Et donc là il s'est passé plein de trucs de
T'as pris comme
ouf.
ça.
Ouais.
Tu t'es dit, j'ai fait un rêve où je faisais du stop jusqu'à
Ouais,
Gibraltar. Du
mais
coup, je vais faire du stop jusqu'à Gibraltar.
il m'a obsédé en fait ce rêve. Je l'ai
D'accord.
fait et c'était à moitié un rêve, tu vois. C'était plus une vision quand je commence à m'endormir. Et je me suis dit, putain, mais il faut que je fasse ça quoi. Très
D'accord.
bizarre.
Une sorte
Donc là.
d'inspiration
Ouais.
t'es venue.
Donc j'avais du temps. Je me suis dit, bon, j'y vais quoi, il y a un truc. Donc je commence à faire mon stop. Et là il s'est passé deux choses. Déjà, j'étais bloqué sur une station à Barcelone. Et je devais longer la côte en passant par Valence, tout ça, puis je trouvais pas de voiture, puis une voiture, longue histoire, mais elle m'amène à Barcelone. À Barcelone, c'est là le premier truc déjà, à Madrid, excuse-moi. Et j'arrive à Madrid le soir, donc déjà j'ai fait Lyon-Madrid en une journée, c'était pas mal quand même. Et là je savais pas où dormir, donc je contacte mon ex, enfin une deuxième ex, une fille
Ok.
qui a énormément compté pour moi, la fille, la passion de ma vie, entre guillemets, je pensais toujours l'aimer, etc., ne jamais l'oublier. Et elle habite à Madrid, je savais, donc je la contacte sur Facebook, tout ça. Et elle me dit, bah ouais, je suis là, bah, si tu veux dors chez moi, tout ça. Et je me dis, wow, truc de fou. Je viens de me séparer d'une meuf et tout, et là, je rejoins une autre ex. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est rien passé. C'était un truc de malade.
Ok.
Je me disais, je vais voir cette meuf, voilà, comme je dis, la fille dont je pensais rester amoureux toute ma vie, et en fait, rien. Rien. Tu vois, la page était tournée, et ça m'a créé un soulagement de fou, quoi. Donc ça m'a enlevé un énorme poids de me dire que c'est possible en fait de voir ce que le temps est possible de faire, ce que tu es capable d'oublier, que tu pensais ne jamais pouvoir oublier. Donc ça a été une grosse, grosse leçon pour moi. J'ai pu tourner cette page et avancer plus sereinement dans ma vie de manière générale, ma vie amoureuse, ma vie de manière générale. Donc ça c'était le premier truc, mais le truc vraiment de fou, c'est que je continue mon voyage en stop. Je vais à Séville, ça se passe bien. Ensuite de Séville, il fallait que j'aille à Gibraltar, c'était la dernière étape. Et là je vais à une station essence à la sortie de la ville, donc on me dit oh, c'est la meilleure station, machin, pour aller dans le sud. J'y vais, je demande à 150 personnes en espagnol, tout ça, avec mon espagnol de merde. Bon, personne allait dans ma direction, quoi. Incroyable. Alors que j'étais quand même bien placé. Donc là, je me dis, bon, je vais avancer. Donc, je traverse des bretelles d'autoroute. Je fais au moins 1 ou 2 km en plein cagnard. Il faisait 35 degrés. Au bout d'une heure, j'avais déjà plus d'eau. J'arrive à un spot, enfin, sur la voie de lancée, la route de lancée qui allait à Cadiz. Enfin, direct, là où je voulais aller. Et là, je commence à faire des signes et tout. Personne ne me prenait. J'étais au bord de la route, mal placé. Et donc, j'avais un petit quai de brouillon. Je sors, j'avais juste un crayon à papier. Je marque Cadiz en essayant d'insister sur les traits. Bon, les gens, ils voyaient rien. Je voyais qu'ils regardaient. Ils me disaient désolé. Enfin, ils traçaient, quoi, les gars. Et je me dis, fais chier, j'avais plus d'eau, il faisait super chaud. Donc je me pose contre la barrière en mode, bon bah je dois rentrer quoi, parce que là je vais crever en fait. Et donc je me pose contre la barrière, il y a une sorte de barrière en tôle, tu sais, ondulée comme dans les bras des autoroutes. Et donc on était au milieu de nulle part, j'avais fait au moins un kilomètre, j'étais sorti de la ville, il y avait des champs tout pourris par le soleil avec des vieux moutons de tous les côtés, et puis rien quoi. Et là je mets ma main derrière, et il y avait des feuilles et des bâtons, je déblaye un peu le truc pour pouvoir mettre mes mains correctement. Et je vois, je sens un petit stick, tu vois, et je regarde, et là, il y avait un marqueur noir.
Ok, un marqueur noir.
Incroyable, ouais.
Au bord de l'autoroute.
Ouais, dans la barrière.
Dans la barrière.
Okay. Donc il devait avoir eu un autostoppeur qui avait laissé le truc. Mais c'est incroyable déjà pour que je tombe dessus en posant mes mains. Donc je l'ouvre et il marchait parfaitement, tu vois. Et là, j'écris Cadiz sur mon truc, donc avec le marqueur noir sur ma fameuse feuille. Et là, la première voiture s'arrête et m'embarque en direction de Cadiz. Truc de fou.
Et okay.
Là, je me dis, tu vois, plein d'expériences comme ça. Dans ma vie, on fait que je me suis dit, il y a un truc, tu vois, c'est pas possible qu'il y ait des hasards de fous comme ça qui se passent. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça donne vraiment confiance en la vie. J'allais devoir rebrousser chemin et j'allais pas pouvoir, et ça me faisait vraiment chier de pas arriver au bout de ma vision, quoi. Et là, il y a un petit marqueur au milieu de nulle part qui était présent.
Ok.
De fou, non?
Et du coup, après, t'es arrivé à Gibraltar?
Et du coup, je suis arrivé à Gibraltar après, ouais, le soir. Bon, c'était une galère de fou. Hein. Enfin, bref, il y a 15 000 histoires sur le trajet, mais je suis arrivé à Gibraltar le soir. Puis j'ai fini mon Lyon-Gibraltar en stop comme j'avais rêvé.
Et c'est passé quoi dans ta tête, du coup, justement, quand t'es arrivé à Gibraltar?
Et ben, beaucoup de. Bah, déjà, j'étais épuisé, hein. j'étais épuisé, mais beaucoup de satisfaction, de mouvements qui s'étaient recréés dans mon esprit par rapport à tout ce qui m'est arrivé et ouais ça m'a relancé quoi pour la suite, ça m'a un peu sorti de ma période down.
D'accord, donc c'était quand même un des leviers d'un virage.
Une partie des expériences qui ont fait que j'ai certaines croyances un peu bizarres aujourd'hui, genre de faire confiance à la vie, tout ça, voilà, ça.
Ah, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand je te pose la question sur qu'est-ce qui fait que tu as confiance en la vie, tu n'as pas trop hésité à me raconter cette histoire-là.
Non, parce que j'en
parlais.
Et dans
cette histoire-là, tu as déjà deux, trois histoires qui sont, qui sont assez fortes.
J'en ai 15 d'histoires comme ça. Je suis dans ma vie parce que j'aime faire du stop et il m'arrive quand même beaucoup de trucs. Et
ouais.
J'aime me mettre en danger. Et pendant mon voyage, pendant ce tour du monde, je faisais exprès de me mettre en danger, je faisais exprès de rien réserver, d'aller là où la vie me menait, entre guillemets. Puis à chaque fois, il m'arrivait des trucs, des fois des galères, hein. Mais au final, les galères se transforment en expériences tellement enrichissantes que tu es content de les avoir vécues.
Ouais.
Et ouais, pendant. Mais le tour du monde, ça a été pendant un an et demi un enchaînement de trucs de ouf comme ça, quoi. C'est.
Ouais, j'ai l'impression qu'en voyage, tu arrives à rentrer dans un espèce de flow un peu particulier t'arrives à. Est-ce que dans ton tour du monde, justement, il y a eu un moment où. Là, tu disais par exemple pour ton activité. Pour moi, je suis dans une phase où j'ai confiance. Il ne faut pas non plus trop que je fasse le malin, parce que ça pourrait se casser la gueule ou quoi que ce soit.
Ouais.
Est-ce que tu avais le même état d'esprit quand tu étais en voyage, ou est-ce qu'arrive un moment justement, tu te disais, bon, quoi que je fasse, dans tous les cas, je ne vais pas crever, il y aura toujours un truc pour que ça rebondisse et que ça se passe bien.
Ouais. Non, j'ai toujours eu confiance pendant le voyage.
Voilà,
je me dis, quoi que je fasse, ça va aller. Et il y a des fois, j'ai failli mourir. Bon, longue histoire, mais peu importe, mais. J'ai pris conscience après que ça aurait pu ne pas bien se passer du tout, quoi. J'ai gardé la foi jusqu'au bout et j'ai pas douté. On était perdus, en fait, dans une randonnée, on avait pris un chemin, on était complètement à l'opposé de là où on allait, c'était en Nouvelle-Zélande.
Nouvelle-Zélande, ok.
Et on s'est fait recueillir, on était à 16 km, en fait, on arrive, on croyait qu'on allait arriver, on se doutait qu'on n'avait pas fait une boucle. On arrive à tomber de la nuit devant un panneau, tu vois, on voyait au loin, on se disait qu'il allait avoir notre auberge à 2 km, tu vois, ou 200 mètres. En fait, c'était genre à 18 km, un truc comme ça, on avait fait un chemin complètement opposé. Et là, on s'est dit merde, et on pouvait pas faire demi-tour parce qu'on avait traversé une falaise, il faisait froid, puis ça gelait, tu vois, c'était impossible de. Enfin, on allait se casser la gueule dans le noir, on n'avait pas de lampe, rien. On avait vraiment fait les amateurs. Et en fait, on s'est dit, ben, on va attendre les secours, hein, parce que là, on est dans la merde, en fait. Il commençait à faire nuit, il faisait genre moins 5 degrés, tu vois, on commençait à faire des pompes et tout, et on allait crever de froid, c'est sûr. Et là, il y a des mecs qui passent en quad. Et c'était des chasseurs. En Nouvelle-Zélande, il y a des chasseurs qui sont employés par l'État et qui se posent dans des endroits au milieu de nulle part dans la nature et qui tuent les chèvres, parce que les chèvres bouffent toutes les petites plantations, en fait.
D'accord.
Donc, ils sont là pour tuer les chèvres sauvages qui ont été importés d'Europe ou je sais pas quoi. Et en fait, ces chasseurs, ils auraient pu être n'importe où en Nouvelle-Zélande, mais ils avaient leur campement pas loin et ils sont passés en quad à la tombée de la nuit sur le chemin
Vous
là où on
étiez.
attendait, quoi.
Ok.
Ils nous disent, mais les gars, vous êtes barjots, et là, il n'y a personne qui passe. Et en fait, pour venir sur ce chemin, il fallait faire le tour de la montagne, il fallait faire 160 km en voiture, quoi. Et de toute façon, les sauveteurs qui étaient à notre rescousse, hein, ils avaient pris un chemin complètement différent, ils avaient pris un chemin qu'on n'avait pas pris nous, donc ils n'auraient pas pu nous retrouver. Et après, grâce au talkie-walkie des chasseurs, ils ont envoyé des messages à la radio, enfin, je sais pas comment ça se fait exactement, mais l'équipe de sauveteurs qui était à notre housse, on va dire, nous ont retrouvés grâce au message des chasseurs. Mais sinon, ils auraient perdu notre. Enfin, ils seraient morts de froid, quoi, clairement. Ouais. Bah, c'est cool de se dire que.
Mais voilà, donc là, c'est peut-être un moment d'un voyage ou un moment de ta vie où t'as un peu douté ou t'as un peu.
Bah non, justement, j'ai pas douté.
Non, t'as pas douté.
Ça m'a fait réfléchir après. Mais malgré ça. Bah, ouais, j'allais dire, j'ai continué de prendre des risques, mais peut-être qu'après, je prenais. Enfin, ça m'a peut-être assagi, entre guillemets, ou rendu plus prudent. Mais j'ai gardé cette confiance en la vie, tu vois. C'est encore un signe qui m'a dit, bon.
Voilà, tu vas plus forcément chercher les extrêmes, mais par contre, tu as gardé la confiance du truc, quoi. C'est intéressant, ça me permet de placer ce podcast parce qu'il est vraiment cool. Je crois pas que je t'en avais parlé, c'était un podcast du gratin, ça s'appelle Le Gratin Podcast.
Ok,
C'était
je connais pas.
une femme, je ne rappelle plus son nom. Bref, j'ai déjà partagé, donc je vais éviter de le repartager, mais en gros, dans le podcast. C'est une femme qui avait fait toute une qui avait fait HEC, école d'entrepreneuriat et tout. Elle était passionnée par l'entrepreneuriat. Et en fait, dans ses différentes explorations qu'elle a fait autour de son métier, elle a rencontré des gens qui étaient explorateurs et qui faisaient des ultra-trails. Et en fait, elle s'est découvert une passion pour ça. Elle s'est mise à faire des ultra-trails. Donc, ultra-trails,
Je vois bien,
c'est super long, quoi. Tu vois, c'est 300 km pendant non-stop, pendant 3 heures. Enfin, un truc de fou. Et elle a adoré ça et tout. Après, elle s'est mise à faire des explorations. Un peu poussé. Et là, la dernière, du coup, dont elle parlait dans le podcast, c'était 2000 km pendant 73 jours en Antarctique.
D'accord.
Elle a préparé ça pendant 4 ans.
Ouais.
Et elle expliquait comment justement elle avait préparé ça, comment elle avait géré le truc.
D'accord.
Et là, je le fais en gros résumé, mais moi, qui m'a fasciné, c'était le côté. C'est pas le côté extrême qui m'a fasciné, c'est la manière dont cette personne, elle a de parler de son truc. Et elle était vraiment. En gros, elle arrivait, je crois que c'était au Chili pour le premier point de départ. Et quand elle y arrivait, en fait. Elle est tombée malade, donc elle a une sorte de grosse grippe semi-gastro. Et normalement, ça aurait pu un peu la déstabiliser en disant, ben, commencer à faire une exploration en Antarctique, tout à pied, en course, à moins 50, dans l'état où je suis, je vais crever, tu vois. Sauf que elle, dans son état d'esprit, à aucun moment, elle s'est... Il n'y avait même pas une case qui disait je vais crever. Il y avait par contre une grosse case qui disait j'ai un objectif, ça fait 3 ans ou 4 ans que je bosse là-dessus et que je me prépare. J'ai déjà connu avant un seul vrai échec où je me suis arrêté et c'était encore pire que si j'étais allé jusqu'au bout. Du coup, je le fais. Et du coup, la meuf, elle a commencé son exploration dans l'état où elle était. Elle est partie là-dedans pendant 73 jours. Il y a eu des phases où elle n'a pas mangé pendant 30 jours. Du coup, elle dit qu'elle a vraiment expérimenté ce que c'était que la faim profondément. Il y a eu des phases où elle était plus du tout dans une situation d'exploration, mais dans une situation de réelle survie. Parce qu'elle dit, quand on est à moins 50 pendant plus de 5 ou 6 heures, arrive un moment où même les vêtements techniques, ils suffisent plus. Donc du coup, il faut tout le temps que tu bouges, que tu sautes sur toi-même et compagnie, alors que tu n'as dormi que 3 heures, que tu n'as pas mangé depuis 20 jours.
Pas d'énergie.
Et rien que l'espèce de grosse image que j'avais en tête pendant qu'elle racontait ça, je me disais, mais là, à quel moment elle survit, quoi. À quel moment elle est vivante? Normalement, dans ma tête, tu vois, même toi, dans ce que tu as dit juste avant, tu disais passer toute une nuit à moins 5, c'est sûr, on allait mourir, tu
vois. Ouais,
voilà ça, dans nos têtes, en général, on se dit, bah en fait, il y a une situation où c'est obligé que tu ne puisses pas survivre, quoi. Et elle, dans sa tête, à aucun moment, quand elle te le raconte, elle se dit, je vais mourir. Elle se dit toujours, c'est dur, je vais souffrir ma race, parce qu'elle se dit, j'ai vraiment souffert dur, dur, dur. Mais à un stade, je pense, on ne peut même pas imaginer quand on n'a pas vécu son truc. Et elle a fini son exploration dans le temps qu'elle s'était donné de 73 jours au départ. Et à la fin, quand elle a été récupérée par les scientifiques qui étaient dans la station, Elle a dit, bon, quand on a vu leur regard sur nous, on s'est rendu compte que là, on devait être dans un sale, sale état.
Ouais.
Mais sinon, bah, elle l'a fait, quoi. Et puis, elle était là pour en parler sur le podcast Vivante. Et tu dis, mais c'est ouf.
La capacité d'adaptation.
Ouais, jusqu'où le corps peut aller,
quoi. Il y a ça qui est ouf aussi. Parce que quand je raconte toutes mes aventures de voyage, même moi, je me dis, putain, c'est un truc de fou. Mais quand tu es dans le moment présent, tu ne dis pas que c'est un truc de fou. Tu vois, je me suis fait arrêter par l'armée au milieu de la Colombie parce que mon bus transportait 60 kilos de cocaïne.
En fait, c'est pas mal.
Ouais. Et quand j'étais dans le présent, tu vois, il y avait les militaires autour de nous avec les mitraillettes et tout, dans une zone où il y avait les FARC un petit peu, dans la jungle colombienne. Mais j'étais serein. Quand je suis allé demander, à discuter avec le gars avec sa mitraillette en lui disant bah, qu'est-ce qui se passe, machin, il m'expliquait bah, alors on a trouvé un coffre de cocaïne, tout ça, il y a un bus qui va arriver dans quelques heures, pas de problème, machin. Moi j'étais là, ok, cool. En fait, quand tu le racontes, tu te dis, tu te fais arrêter par des militaires, et il y avait $1 million de cocaïne derrière toi, quoi, dans le bus. C'est ouf. Mais quand tu es dans le présent, bah, ça déroule, quoi. Alors, j'ai jamais rien vécu d'aussi extrême que la femme dont tu parles, évidemment, mais je pense qu'on a une capacité d'adaptation à la contrainte qui est énorme, en fait. Mais on n'y va jamais parce que notre vie ne nous offre pas ça, mais je pense que c'est vraiment énorme, quoi. Et ça me faisait penser à un truc qui était mon deuxième sujet.
Vas-y, parfait.
La femme qui tombe malade, mais qui a tellement préparé son truc et qui se dit j'y vais quand même. Tu vois, il y a cette notion de. En anglais, ils disent gut feeling. Tu vois, quand tu sens le truc à l'intérieur de toi, une sorte d'intuition qui vient du ventre.
Ouais.
Et ça, je trouve que c'est vraiment cool d'en parler. Parce que.
Le gut feeling, alors.
Il m'est arrivé un truc là. Et le gut feeling et les signes de la vie, on en parlait tout à l'heure, des petits signes que t'envoie la vie.
Ouais. Comme le marqueur qui est coincé dans le.
Ouais, ouais, ouais. Parce que. Ouais, c'est hyper intéressant pour prendre des décisions. Là, j'ai dû à prendre une décision. Je sais pas si je t'ai dit que oui, j'avais été contacté par le CSKA, le plus gros club d'Europe en basket. Je t'en ai parlé.
Ouais, ok, contacté par le plus gros club de sport en basket. Ouais.
Et tu vois, en tant qu'ostéopathe qui fait basket, qui traite des basketteurs, c'est une opportunité de fou, tu vois. Donc, quand ils m'ont proposé ça, j'ai appelé mes potes pour leur dire, pour partager. Et là, il y a 90% des gens m'ont dit putain, vas-y, mec, lâche tout, vas-y, c'est énorme. Et moi, j'étais là, j'allais y aller parce que tout le monde me disait vas-y. Je me disais, bon, il faut que je les écoute quand même. Mais j'étais pas sûr, j'avais pas cette sensation en moi qui me disait vas-y, tu vois, le fait
qu'il y ait. Tu sentais pas que ça déroulait dans le même sens que les autres.
Tu n'étais
pas entraîné dans l'excitation du groupe.
Puis ça arrivait comme ça et tout. Je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, j'avais mes trucs en place en France, dont j'ai bossé pour. Et voilà, cette opportunité de fou arrive à moi. Et à aucun moment, j'ai senti ce gut feeling qui me disait allez vas-y t'es chaud. J'avais toujours une petite retenue et j'ai quand même appelé pour leur dire bon bah ouais je suis chaud pour discuter, pour leur dire oui en fait. J'appelais pour dire oui et voir vraiment les conditions précises. Je connaissais le salaire, je connaissais plein de trucs. Et là en discutant, le gars m'a dit une dernière chose. Il m'a dit oui par contre tu vas devoir parfois rester à Moscou et pour soigner le blessé pendant que l'équipe sera en déplacement. Et moi, je m'imaginais, en fait, il m'avait vendu le truc au début où j'étais dans le jet privé, on faisait l'Euroleague, on faisait tout. Je me suis dit, putain, énorme, quoi. Mais j'avais toujours cette petite retenue. Et bon, à partir du moment où il m'a dit ça, il m'a dit, tu vas rester à Moscou, tout ça. Je me rappelle très bien que j'aime pas Moscou. Vivre à Moscou ne m'inspire pas du tout. Et donc là, j'ai dit non, quoi. Ça a été le petit signe de trop qui m'a fait dire non. Ouais. Puis après, une fois que tu as dit non, que tu as pris la décision, et ben. Tu te sens un peu soulagé, tu te sens. Je sais pas pourquoi, mais tu sens que c'est la bonne décision.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais.
C'est pas rationnel, ni. C'est pas ta raison qui est.
Moi, j'ai l'impression que ce gut feeling, justement, ça c'est très personnel, mais que c'est difficile de. Enfin, c'est un signal faible, quoi.
Ouais.
C'est un truc en fond, mais faut être vraiment attentif pour arriver à l'entendre, quoi. Il est très léger. Alors, je pense que c'est peut-être quelque chose qui se développe et qui fait que du coup ça devient de plus en plus clair et que quand tu l'as clairement après ça doit être beaucoup plus agréable quoi. Mais oui, je sens qu'il y a un truc, mais ouais. C'est vrai que toi du coup il est comment, tu sens que c'est un signal faible ou c'est quelque chose qui commence à...
Non, je sens qu'il est assez fort.
D'accord.
Mais il y a des fois il est plus faible que d'autres, mais il y a des fois c'est sûr que non. Des fois c'est sûr que oui, que je dois faire les trucs. Et des fois je pense qu'il sait ce qui est ce feeling intérieur, il sait ce qui est bon pour toi. C'est-à-dire que des fois, il peut te dire ce feeling, ok, il y a un mur, mais vas-y, tu vois. Tu vas te le prendre, puis tu vas en pleine gueule, et puis tu vas tirer une leçon. Mais tu vois, je fais confiance, c'est comme une petite voix qu'on aurait. Il y en a qui parlent de petite voix intérieure, mais ouais. Moi, ça vient souvent du ventre. Et pour répondre à la question, est-ce qu'il se développe ? Ouais, forcément. Je sais pas trop, mais plus tu l'écoutes, plus tu vas le développer, je pense. Plus tu essayes de l'écouter, plus il va se développer. Plus tu médites, plus tu passes de temps seul, à mon avis, sans
les influences de l'extérieur tout le temps.
Ouais. Genre, je sais pas si tu as déjà fait. Moi, j'ai jamais fait des retraites de 10 jours Vipassana.
Non, jamais fait. Vipassana, c'est celle où tu restes en silence aussi.
Ouais, pendant 10 jours. Ça, j'ai jamais eu les couilles de le faire encore. Je pense que je le ferai. Mais ce genre d'expérience doit pas mal développer ton ressenti, je pense.
Je suis d'accord. Ouais. Le gut feeling. Donc, toi, tu sens que c'est vraiment dans le ventre, quoi.
Et pour l'histoire de Moscou, en fait, ça me fait penser à ça parce que j'avais pas ce truc, cette petite ampoule qui s'allumait dans mon ventre, quoi.
Ouais.
Mais c'est pareil pour tout, c'est pareil pour les dates que tu vas faire avec des filles, tu vois, dans toute ta vie de célibataire, tu as dû faire des dates, et puis il y a des filles qui étaient très bien sur le papier, puis il n'y a rien qui s'allumait en toi, quoi.
Ouais.
Et je crois que c'est un peu pareil pour tout.
Et tu arrives à rester tout le temps connecté à ce gut feeling, ou est-ce que des fois, justement, il n'y a plus rien?
Non, il n'y a plus rien, des fois j'écoute ma raison plus que mon ventre. Non, j'arrive pas.
Et qu'est-ce qui fait que du coup tu es plus dans un mode qu'un autre? Est-ce que tu arriverais à dire qu'est-ce qui te précipite dans le côté rationnel, ou qu'est-ce qui arrive à faire en sorte que tu restes du côté plus du ressenti et de l'intuition?
Je pense que ça dépend du mood dans lequel je suis. Si je sors une journée de boulot où j'ai eu des consultations bien perchées avec des ressentis de ouf et tout, je pense que si le soir j'ai une discussion à prendre, je vais écouter mon ventre.
Okay.
Mais si je sors d'une journée un peu plus administrative, plus cartésienne, peut-être avoir plus tendance à écouter ma raison.
Ok.
Mais je sais pas. Je dis ça au hasard, en fait. je pense que c'est plus de l'état d'esprit du moment pendant lequel t'as à prendre la décision que.
Mais je vois la jointure entre les deux, ouais. C'est des modes, peut-être. C'est des.
Ouais.
Si jamais tu favorises tout le temps la partie rationnelle, tu te retrouves à être tout le temps dans le raisonnement.
Ouais.
Et du coup, ça devient dur d'avoir l'autre côté. Et puis, si t'es trop dans l'émotionnel et dans le ressenti, ben, tu te retrouves. Être tout le temps un peu perché, déconnecté du réel, un peu tout le temps à flotter, quoi.
Ouais, c'est un peu le piège. Hein. En tant qu'ostéo, je connais bien ça. Dès que tu commences à explorer un peu les dimensions énergétiques ou tu ressens des trucs bizarres, bah, tu peux vite être perché, quoi. T'as intérêt à être, on dit ancré, on utilise le terme ancré, nous. C'est important d'être ancré puis de rester connecté au réel, quoi. Sinon, tu déconnectes. Puis socialement, c'est pas forcément bien. Tu t'isoles un petit peu, tu deviens au moins compris. Bah, c'est pas cool, quoi.
Ouais.
Je sais pas si tu connais ça, t'es quand même un peu perché.
Moi, je suis je pense que je suis quand même plus. J'ai une appétence à être très souvent dans le rationnel, quand même, ce qui fait que j'ai plus de difficultés à me reconnecter sur l'autre côté de l'intuition que l'inverse.
Ah ouais?
Moi, ouais.
J'aurais dit l'inverse.
Ah non.
Ok.
Non, mais il faut que je travaille sur toute la dimension après de yoga, de méditation, de trucs comme ça pour essayer Sinon, je suis tout le temps en train de tout rationaliser, de tout calculer, de tout réfléchir. Après, ça vient aussi du métier que je fais, des activités que j'ai, qui sont tout le temps un peu sur le côté raisonnement, réflexion, construction de concepts, de choses comme ça, quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça fait du bien de basculer aussi de l'autre côté. Et c'est vraiment une sorte de jauge d'équilibre entre ces deux dimensions-là qui est à tenir, quoi, qui est intéressant.
Ouais. Je pense que les drogues, on se demandait comment développer un peu ce truc-là. Je pense que les drogues développent pas mal ça.
Ah, c'est un gros raccourci pour l'autre côté, ouais. Tu prends tu prends du LSD, tu bascules vite du côté cerveau droit, intuition.
Forcément.
Et tu libères le côté rationnel, hein, parce que tu ne réfléchis plus. Oui, c'est sûr. Moi, toutes les expériences que j'ai faites avec ce genre de drogue, tu te retrouves à être complètement... C'était les choses qui sont agréables aussi. C'était le moment où tu es là, tu es en train de dérouler, tu es en train de marcher. Et t'essaies de voir à quoi t'es en train de penser, et en fait tu te rends compte que t'es plus du tout en train de penser à quoi que ce soit.
Ouais.
Et là tu fais, pouah, c'est reposant, dis donc, là je suis plus en train de réfléchir à quoi que ce soit, rationaliser quoi que ce soit, je suis juste en train de dérouler ce qui se passe. Et du coup, bizarrement, forcément, tout ce qui se passe autour est beaucoup plus intéressant, tes émotions sont vachement plus développées, enfin il y a plein de choses qui sont de l'ordre. Et puis là, du coup, t'as plus de doute sur ton intuition, parce qu'au final, c'est devenu très clair, et tu sais limite précisément si tu dois aller à gauche ou si tu dois aller à droite, si tu dois lever le bras ou pas lever le bras, et du coup, ça devient fluide, quoi.
Et le fait d'avoir connu ces états ne facilite pas le retour dans ces états-là sans prendre de drogue, dans la vie quotidienne plus tard.
Dans mon cas, j'aurais tendance à dire que c'est une sorte de grosse autoroute qui te permet de voir ce que ça fait, de voir comment c'est. Mais c'est juste une fenêtre par laquelle tu peux regarder, mais tu ne franchis pas.
D'accord.
Et après, quand tu reviens dans cet état de conscience, on va dire normal, que tu recommences à rationaliser, à tout cadrer, vu que tu n'as pas fait de toi-même le cheminement pour arriver jusqu'à cet état-là qui était très fluide, bah, en fait, tu ne connais pas tout le parcours.
D'accord. Mais en sachant qu'il existe, tu sais que la destination existe, tu ne connais pas le chemin, mais ça n'aide pas.
Bah, des fois, ça m'aide, parce que du coup, c'est ce qui me permet de garder, comme tu disais, un peu la foi sur les choses de la vie. Parce que je pense que quand tu es 100% ancré dans le rationnel, la vie, elle devient beaucoup moins fun et beaucoup moins sympa. Parce que du coup, il n'y a que des choses qui sont réfléchies, c'est cadré, on en revient sur ce qu'on disait. Le
concept de funifier la vie,
tu sors un peu du funifier de la vie. Quoi. Puis il y a beaucoup moins de surprises parce que tu es en train de toujours le rationaliser, tout doit être calculé. Donc là, tu es dans la qualité actuelle de notre monde, un peu de notre société. Quoi. Donc c'est pas très sympa. Donc du coup, tu essaies de garder un peu la foi sur cette fenêtre-là. Mais donc ça peut aider dans ce sens-là d'avoir vécu ces expériences. Mais après, des fois, c'est aussi beaucoup de frustration parce que tu as senti l'intensité que ça peut avoir. Et forcément, tu ne peux pas l'avoir tout de suite. Il faut que tu fasses plein de progressions. Et vu que la progression est très lente, ben, du coup, ça peut être frustrant. Et en plus de ça aussi, un peu comme tu disais avec ton expérience en Colombie, quand tu es dans l'expérience et dans l'instant, tu as un certain état de conscience de la chose. Et quand tu y penses plus tard, tu te dis waouh, c'était un truc de fou, ou tout ça. Bah là, pour ces expériences-là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que quand tu es dedans, c'est genre waouh, c'est tellement intense, tellement fort et compagnie. Et quand tu y repenses plus tard, bah, tu en viens même des fois à te poser la question de dire est-ce que le souvenir que j'en ai qui était si intense et si fort, c'était vraiment ça? Parce que ça me paraît tellement loin que du coup, j'ai plus l'impression que c'était si fou que ça. Quoi. Et donc, du coup, après, t'en viens à revenir à douter de cette intensité-là, du truc.
Okay.
Donc tu te dis, est-ce qu'au final, c'est juste un vieux souvenir que j'en ai gardé, d'une espèce d'expérience que j'ai l'impression d'avoir vécu comme étant mystique, mais au final, qui n'était qu'un trip. Et tu dénatures ton propre... Enfin, moi, j'ai tendance à dénaturer la propre expérience que j'ai vécue. Alors qu'au fond de moi, quand même, là, on en revient sur le gut feeling, alors qu'au fond de moi, je sens que c'était quand même vraiment quelque chose de très fort et très marquant, qui a une vraie valeur. Et donc, c'est sur ce gut feeling que j'ai tendance à me raccrocher de temps en temps pour me dire non, garde la foi parce que c'était.
D'accord.
C'était pas une hallucination ou un truc qui était faux, c'était pas un rêve, c'était quelque chose de vraiment fort, quoi.
Ok.
Donc, ouais, ça me permet de rester accroché dessus quand même. Mm-hmm. Je pense que c'est intéressant de vivre ce genre d'expérience, même si après, il faut pas se perdre dedans non plus, parce que c'est le problème. Ouais. Vu que le raccourci pour y aller, c'est très facile à consommer, tu peux avoir tendance à vouloir faire le raccourci tout le temps. Quoi.
Ouais, c'est clair. Puis, encore une fois, faire confiance à la vie. Je me rappelle qu'en Amérique du Sud, il y a une drogue qui s'appelle l'ayahuasca, qui est, que les Occidentaux aiment bien expérimenter. Et puis moi, je m'étais dit que j'aimerais bien le faire. Mais l'occasion ne s'est pas présentée. En fait, j'aurais dû vraiment chercher le truc, pousser le truc, forcer pour que ça se présente. Puis j'avais croisé au début de mon passage en Amérique du Sud, c'était au Chili. Un médecin un peu ouvert, on va dire, qui m'avait dit c'est pas toi qui va chercher l'ayahuasca, c'est elle qui vient à toi. C'est-à-dire que si tu te retrouves dans un moment propice, ben ça se passera, quoi. C'est comme quand tu tombes amoureux, en général, tu t'y attends pas et ça se fait. Et avec l'ayahuasca, j'avais gardé ça en tête, donc j'ai essayé de pas forcer le truc. On avait une suite que au final j'avais pas rencontré. Je pense que c'était pas le bon moment pour moi de pouvoir expérimenter ça.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, toutes les expériences que j'ai vécues avec le LSD ou d'autres drogues que j'avais tendance à avoir un peu... où j'avais voulu contrôler, en fait, le moment où ça arrivait.
Ouais.
C'est pas les expériences qui sont, dans mon souvenir, les plus agréables.
Ouais.
Les expériences les plus folles et les plus enrichissantes que j'ai vécues par ça, c'est quand, justement, j'étais plus du tout dans la recherche de quoi que ce soit.
Ouais, ouais.
Et là, du coup, paf.
Ça marche avec tout, en fait, ce concept-là.
Bah, j'ai l'impression.
Ouais. Les soirées, c'est pareil, sans parler de prendre des drogues.
Tu dis, là, je vais faire ma soirée d'anniversaire pour mes 30 ans, ça va être la folie, j'ai invité tous mes meilleurs potes dans le meilleur endroit, avec la meilleure musique, la meilleure bouffe. Et puis au final, ça te fait un espèce de tout.
Ouais.
Et là, tu es au milieu, tu fais... Oh, c'est fade.
Ouais.
Et tu ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi c'est fade, mais c'est juste parce que c'est tout toi qui as voulu contrôler et construire rationnellement, mais tu n'as peut-être plus du tout écouté juste le ressenti de ce qu'il y a, quoi. Ouais, donc, arriver à suivre la petite voix et le petit guide, c'est vrai que ça peut être assez beau, quoi. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas perdre la foi sur le truc.
Ouais, c'est important.
Gut feeling. Et t'as ton troisième. On a encore un peu de temps. Ouais, on a encore un peu de temps.
Bon, au final, je pense qu'on a parlé un peu de tout, parce que mes trois sujets, c'était de redéfinir son métier, vu que t'es designer. Je trouve ça c'est intéressant. Je voulais parler du gut feeling et de la règle du fuck yes, tu vois.
Le fuck yes.
Tu connais Mark Manson?
Mark Manson, ok. Vas-y, ouais. Tu peux nous en dire un petit mot dessus.
Mais c'est un livre qui a pas mal marqué l'année dernière. Et lui, il a pas une théorie, mais il explique. C'est un peu du gut feeling au final, mais il dit que quand tu as une décision à prendre, bah souvent tu sais au fond de toi si c'est un oui ou si c'est un non. Et c'est soit oui à 100%, soit si tu doutes, ben c'est un non. Et je crois que c'est intéressant. Enfin, ça rejoint le
good
feeling.
Je suis d'accord, le fuck yeah.
Ouais.
Et c'est un peu ce que fait de temps en temps Laurie de ma copine, où j'en avais discuté aussi il y a 2-3 jours.
Ouais.
C'est que des fois, t'as pas le fuck yeah tout de suite, quoi, clairement. Et du coup, bah, par exemple, si t'es face à un choix, bah, tu te lances dans un des deux.
Ouais.
Souvent, c'est soit oui, soit non, de toute façon. Tu te lances dans un des deux, et puis pendant que tu es en train de le faire, ou à la limite que tu dois envoyer pour valider un message, ou le fait de vraiment faire choix,
un petit frein.
À ce moment-là, tu vois, c'est soit ça te dit
ouais.
Oh, détente,
ouais,
soit ça te dit ah non. Et là, si ça te dit ah non, faut que tu arrives à te dire ah bon, bah alors dans ce cas-là, c'est pas celui-là.
Ouais.
Alors tu essaies l'autre, et du coup, tu fais pour dans l'autre sens, et si là, du coup, tu sens que plus tu y vas, plus ça devient agréable,
ouais.
Bon, ok, d'accord, bah t'y vas.
Mais c'est
vrai que c'est difficile parce que des fois, rationnellement, c'est pas du tout le coin où tu te dirais faut que t'ailles, et les autres non plus ils te le disent pas, et du coup tu dirais bah non, mais pourtant t'as cette espèce de sentiment de te dire bah non, vas-y, laisse dérouler. Donc il faut aller des fois contre le rationnel pour favoriser le fuck yeah qui est lié à ton intuition, quoi.
C'est
pas forcément évident.
Hier soir, je me demandais si je faisais un post Instagram. Donc moi, j'aime bien écrire du contenu, tu vois. J'aime pas juste mettre une photo et mettre 3 hashtags et voilà.
Ouais.
Et du coup, je commençais à écrire. Puis en fait, ça me faisait chier ce que j'écrivais, quoi. Je trouvais pas ça cool. Donc j'ai arrêté, en fait. Au bout de 10 minutes, j'étais là, non, mais tant pis, quoi. J'écris pas. Puis j'ai reposté, du coup.
C'est vrai que quand t'es dans un processus de création, que ce soit écrire ou même faire de l'artistique ou même du design.
Ouais.
C'est vrai que t'as toujours un peu ce... Je pense que tous les designers pourront le dire aussi, c'est ça. C'est quand t'as réalisé, par exemple, tu fais une affiche pour un événement ou tu fais une brochure de magazine ou tu fais une page web ou je ne sais quoi. Quand t'es arrivé à un certain stade de ton truc et que tu regardes ce que t'as fait, et ben tu sais si ce que t'as fait, c'est bon ou si non.
Ouais.
C'est ça, c'est un peu ce qu'on dit à chaque fois, même pour ceux qui écrivent, c'est qu'il faut déjà que ça te plaise à toi-même avant que ça plaise aux autres. Mais c'est pas du tout le côté un peu prétentieux du truc ou de dire que toi tu sais mieux que les autres, et tu vois, c'est juste un ressenti, là, encore une fois. C'est là, en fait, l'état où ça en est, c'est le mieux que je pouvais faire. Et quand tu arrives à ce sentiment là c'est 90% du temps, quand tu vas le présenter derrière, les gens à ce moment là ils vont dire ah ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est cool et c'est fluide. Alors qu'il y a des fois où tu sens que ah non, là j'étais trop feignant sur le truc, ou je l'ai fait plus pour faire plaisir au client que vraiment pour le projet. Du coup, c'est fade.
Ouais.
Là, quand tu le donnes, pareil, t'es sûr que ça va pas vraiment bien passer, quoi.
Bah ouais. Puis ça te fait perdre le goût du travail, je pense, sur le moyen à long terme. Le fait de faire des trucs sans être convaincu que c'est du bon boulot.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Ouais. Et puis comme tu dis, pour l'écriture, des fois, t'as des moments où t'as cette espèce d'impulsion qui dit putain, là, faut que j'écrive un article.
Ouais.
Ou là, faut que je fasse le truc. Tu vas écrire, ça va dérouler tout seul. Ouais, à la fin, tu dis putain, c'est vraiment ça que je voulais partager. Boum, tu partages.
Ouais.
Et c'était le bon moment et ça marche bien.
Ouais.
Et il y a d'autres fois où tu t'es dit, bon, dans ma journée, je me suis programmé à 14h, il faut que j'écrive un article. T'as pas envie, tu le fais quand même. Ton article, tu dis, il est fade. Tu le postes quand même. Ça marche pas. Ça intéresse personne. Ouais. Et tu fais, ben ouais, au final, je le savais.
Ouais.
Et c'est vrai que souvent, t'as toujours ce sentiment qui revient en disant, ouais, ben au final, je le savais.
Et puis des fois, moi, ce que ça me fait, c'est que j'ai des articles que je trouve trop cool. Enfin, des trucs que j'écris, je trouve que c'est vraiment bien. Puis je le poste, mais ça marche pas. Mais c'est pas grave, parce que je le trouve vraiment bien, tu vois.
Ouais.
Et au final, je perds pas le goût. Parce que si je l'avais posté, si je l'avais trouvé déjà merdique, que je le poste, effectivement, que ça plaît pas, bah là, du coup, ça me casse mon délire. Mais si je le poste alors qu'il me plaît de base, bah, pas grave. Pareil, je prends sans avis, le prochain, je le posterai, puis il plaira aux autres. Mais l'essentiel, bah, c'est ce qui me plaît, c'est que j'écris des trucs qui me font envie, quoi.
Et puis en plus de ça, on peut jamais vraiment savoir ce qui va être utile aux autres personnes, temporellement.
Ouais.
C'est-à-dire, un jour, tu vas écrire un article je sais pas, imaginons, là cet après-midi, tu dirais, je vais écrire un article sur le fait que maintenant je suis un ostéopathe facilitateur et que du coup, on ne peut plus vraiment traiter un patient tout seul parce que c'est trop complexe et qu'il faut qu'on le fasse tous ensemble autour d'une table et tout. Enfin, je sais pas, un délire qui mélangerait un peu nos deux métiers, tu vois. Et puis là, tu es vraiment dans l'énergie, tu écris cet article, c'est un gros article bien conséquent, tu le postes, tu le partages à d'autres personnes, praticiens, et là, tu vois que ça ne réagit pas, ça ne marche pas.
Ouais.
Et là, tu pourrais être frustré en disant, putain, non, si je l'ai senti vraiment, ça devrait plaire aux autres, ça devrait se lancer, ça devrait passer. Et puis, bon, bah, pas grave, tu te dis, bon, ça me plaise à moi, je laisse, et puis voilà. Puis derrière, tu vas écrire d'autres articles, peut-être pendant un an, et puis il va y avoir le temps qui passe, comme on en revient sur ce que tu disais juste avant aussi sur le traitement du temps, sur ce qu'on vit. Et puis tu vas avoir écrit d'autres choses, où là, ça aura marché, ça aura résonné et tout. Et puis, un an arrive, et là, tous les gens qui, avaient résonné sur les autres trucs que tu as écrit, retombent sur ce premier article-là. Et là, à ce moment-là, ça fait un espèce de gros déclic. Ils se disent tous, oh putain, ouais, en fait, il faut qu'on bosse ensemble. Et puis c'est à ce moment-là où tu en as plein d'autres qui écrivent sur le fait qu'il faut qu'on bosse ensemble. Et là, tu fais, ah, ben en fait, d'accord, c'était peut-être pas censé servir à ce moment-là, mais ça va servir un an plus tard. Et puis peut-être que c'est pas toi qui fera que ça enclenchera le concept, mais ça sera quelqu'un d'autre qui peut-être sera tombé sur ton article comme ça, sur une navigation Google à l'arrache et il aura trouvé ton truc. Au final, c'est tellement complexe qu'on sait jamais vraiment d'où ça vient, ce qui se passe. Mais ouais, là où je te rejoins, c'est, je pense que ce qui compte, c'est que quand il y a un truc qu'on fait avec le ventre, même si on a l'impression que ça ne marche pas, on a kiffé de le faire et ça a toujours une raison d'être là ou pas.
Carrément. Mais il y a plein d'auteurs comme ça qui étaient complètement inconnus puis qui sont devenus des stars, mais le gars, ils étaient déjà morts en fait.
C'est ça.
À partir du moment où leurs livres ont été des références.
Bah, rien que il y a un livre qu'on m'a partagé là, je pense que je le partagerai aussi dans les liens du podcast, ça s'appelle Convivialité.
D'accord.
Et en gros, c'est un auteur, il a écrit le bouquin en 73 et il était en train de parler du fait que la technologie allait complètement nous déshumaniser et allait créer des ruptures sociétales très importantes et que ça allait faire une rupture économique aussi et qu'elle allait avoir vraiment des vrais problèmes de déshumanisation.
D'accord.
73, il était le gars, quoi.
Ouais, visionnaire,
tu vois. Et là, c'est maintenant où j'ai vu deux amis designers, plus un autre pote qui ont lu le bouquin, et le truc est en train d'un peu remonter et buzzer là maintenant.
Mm-hmm.
Alors que c'était écrit en 73, le mec est mort en 2002. Donc tu pars du principe que là, il rate complètement le fait que son bouquin est en train de faire tilter des choses dans le cerveau des gens, quoi.
C'est clair.
Et t'imagines la frustration du gars de se dire…
Il meurt et il pense qu'il a raté sa vie, qu'il n'a rien fait de bien.
En plus, il pourrait même à la fin de sa vie se dire, putain, en fait, j'étais à côté de mes pompes toute la vie parce que personne ne me comprenait et personne ne trouvait que ce que je disais avait un sens. et ben si, en fait, mais 30 ans plus tard, quoi.
C'est cool, on pourra se dire ça. Si jamais on n'a rien fait de notre vie, on pourra se dire, ouais, mais… Peut-être que quand je serai mort,
c'est ça.
20 ans plus tard, ça nous rassurera.
Tu peux toujours te dire ça. C'est pour ça qu'au final, là où je te rejoins, c'est que la seule chose qu'on peut peut-être se dire, c'est juste, est-ce que là, ce que je viens de faire, ça me fait du bien à moi de l'avoir fait et ça me parle? Bah alors dans ce cas-là, c'est déjà le bon pas. Et après, si ça sert aux autres, tant mieux. Et puis voilà.
Parce que d'ailleurs, c'est un des regrets. Tu sais, il y a un livre qui a été fait par une infirmière australienne. Les 5 regrets que les gens ont avant de mourir.
Ouais, j'avais vu passer ça.
De mort. Et ça, c'est un des regrets un des 5 regrets, c'est de pas avoir fait ce qu'on avait vraiment envie de faire à l'intérieur de nous, quoi. D'avoir fait ce que les autres voulaient qu'on fasse. Typiquement, nos parents, tellement de gens qui vont dans les carrières parce que là. Leurs parents les ont consciemment ou même souvent inconsciemment, je dirais, orientés là, quoi. Et qui ne sont pas du tout faits pour faire ce qu'ils font de leur vie.
Et ça reboucle sur ce qu'on disait au début, comme ça on pourra peut-être conclure là-dessus. Mais l'idée de, ben voilà, quand ton métier, toi justement, tu le réinventes en créant toute une constellation d'activités autour, mais qui te viennent naturellement parce qu'en fait, tu sens que c'est des rebonds de rencontres, c'est des rebonds de tests, d'écriture, d'Instagram, de plein de choses au final. Parce que même le fait que sur ton compte Instagram, tu t'es quand même pas mal de followers maintenant par rapport à des techniques que tu as, enfin pas des techniques, mais un certain comportement que tu as eu en invitant des gens à venir sur ton truc et tout. Ça typiquement, ça devrait être un métier, c'est un métier.
Uh-huh.
Il y a des gens qui sont experts sur le community management et la gestion des comptes. C'est pas ton métier, pour autant tu as utilisé des leviers de ce métier-là qui fonctionnent et voilà.
Ouais.
Et au final, c'est quelque chose qui fait partie de la constellation autour de ton métier d'ostéopathe.
Ouais.
Donc on peut arriver à explorer plein de sujets et les connecter entre eux et ça fait notre nous au final. naturel, ouais. qui n'est pas limité dans un métier. Et donc, du coup, ce que tu disais, le fait de changer d'axe, bah, c'est pas forcément complètement changé, c'est-à-dire de basculer d'ingénieur à boulanger, mais c'est peut-être juste d'être ingénieur et puis de greffer plein de choses autour qui va faire qu'au final, tu ne pourras plus dire que tu es juste ingénieur, tu pourras dire que tu es la personne que tu es et puis point barre, quoi.
C'est clair. Et, ouais, et pour boucler la boucle, encore une fois, on va pas arrêter de la boucler, cette boucle, mais ouais, là aujourd'hui, on va prendre du temps. Comme on disait, on ne travaillait pas de notre métier de base, mais là, moi, en tout cas, ça me permet aussi de voir que le podcast me plaît, parce que c'est la première fois que je fais un podcast et je te remercie d'ailleurs de m'avoir invité.
Cool.
Et donc, je pensais lancer un podcast sur le sujet de la santé bientôt, dès que le livre la sortira. Je vais enchaîner avec les podcasts et voilà, je pense que cette expérience fait que ça valide, encore une fois, on parlait de validation tout à l'heure, ça valide le fait que je suis chaud pour les podcasts.
Du coup, voilà, c'est ça. Par une expérience un petit peu décentrée, ça te rajoute un point dans ta constellation de dire je vais faire un podcast sur la santé.
Nouveau point dans la constellation. Merci.
Cool. Bon, tant mieux. Ouais. Merci Étienne, en tout cas, pour cette discussion. Qui aura fait 1h23, donc c'est pas mal.
C'est pas mal.
Et voilà, tu vois, c'est rigolo parce que ça finit toujours à peu près dans les mêmes petites heures et on a parlé des trois sujets et ça déroule. Comme quoi, il y a peut-être une règle sur la longueur d'une conversation.
Peut-être.
On va savoir, c'est rigolo.
Ça correspond presque à un cycle de sommeil.
Un cycle de sommeil.
Une heure, voilà. Une heure et demie,
là, c'est un cycle de discussion, un cycle de sommeil. Voilà. On va faire une sieste juste après, du coup, et ça ira.
Parfait.
Quoi. Bon, merci Étienne. Et puis à bientôt.
À plus, Maurice. Ciao.
Et voilà, c'était Étienne Bulidon. Dans cet échange, ma foi, plutôt riche en sources d'inspiration. Le fait d'avoir exploré d'un côté tout l'aspect professionnel et puis la constellation qu'il a construit autour de son métier. Oui, j'ai dit beaucoup de fois le mot constellation, mais c'est vraiment super intéressant de voir comment il a fait évoluer son métier d'ostéopathe. En passant aussi par toutes les anecdotes de ses voyages qui ont construit au final un peu sa confiance en la vie. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien d'échanger sur ce sujet, le côté confiance dans les choses et sentir qu'on peut être à sa place sur certaines choses et puis sentir aussi qu'on n'est pas à sa place sur d'autres. Donc ça permet aussi d'avoir un peu un guide intérieur, c'est super intéressant. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, je me suis bien éclaté. Pour finir, comme à chaque fois, histoire de replacer un petit peu ce podcast, dans son contexte, le podcast Nouvelle Porte fait partie d'un projet plus large, qui est un projet d'exploration autour de la curiosité, autour de beaucoup de formats différents. Ça peut être des conférences, des rencontres, des workshops, d'autres événements, un peu comme justement on est en train d'organiser ici, qui s'appelle la rentrée des idéaux. Donc explorer les idéaux par plein de biais différents. Voilà. Le podcast est vraiment destiné à mettre en avant des personnes qui sont curieuses, qui sont inspirantes, qui sont aussi quelque part des explorateurs, pas forcément des gens connus, pas forcément des gens qui ont réussi suivant certains critères, mais plus des gens qui vivent un petit peu leur vie et qui ont des choses à partager, des réflexions à pousser aussi pour que ça puisse stimuler votre propre curiosité. Voilà. Donc n'hésitez pas, tout simplement pour que le podcast puisse être visible, à le partager et à le noter aussi sur les différents supports comme Spotify, iTunes ou je ne sais pas d'où vous écoutez, mais en tout cas n'hésitez pas à mettre une petite note parce que c'est que ça qui fait remonter en fait avec les différents algorithmes des services. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez participer au podcast ou si vous voulez proposer des personnes qui vous inspirent à venir échanger. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui devrait arriver pas dans très longtemps parce que j'ai pas mal de personnes encore à rencontrer. Et voilà, passez un bon moment et à très bientôt.